Nous sommes le mardi 20 septembre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, pour faire des économies d'énergie, prenez l'escalier, c'est bon pour le cœur et le porte-monnaie. À Lyon, un office HLM demande à ses résidents d'éviter l'ascenseur pour économiser l'électricité. Ce sera peut-être le cas demain dans votre résidence. Reportage dès le début de ce journal. À Londres, le jour d'après, après les funérailles grandioses de la reine, les Britanniques reviennent à la réalité. L'inflation bat des records, la colère sociale gronde. Le retour aux affaires s'annonce périlleux pour la nouvelle première ministre Liz Truss. Et puis dans ce journal également, le procès de l'accident de car scolaire de Mias qui avait coûté la vie à 6 collégiens. La conductrice maintient sa version des faits. Récit de l'audience d'hier dans ce journal. Le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La flambée des prix de l'électricité apporte chaque jour son lot de surprises et de désagréments. Chacun peut le constater sur sa facture. Imaginez ce que cela représente pour une entreprise, une collectivité ou encore un immeuble. À Lyon, un office HLM qui gère un parc de 1200 logements vient de demander à ses résidents de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur pour faire des économies. Les résidents ne sont pas tout à fait convaincus. Reportage à Brignais près de Lyon de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Le courrier est affiché sur la porte d'entrée de cet immeuble de 4 étages. L'Opac du Rhône y explique que l'envolée du coût de l'électricité entraîne une hausse importante des charges des parties communes. Elle demande donc aux locataires de limiter l'usage de l'ascenseur, explique Xavier Englobert, directeur général.
Un voyage en ascenseur coûte à peu près 10 centimes. Si vous utilisez votre ascenseur quelques centaines de fois par jour, ça représente un coût qui n'est pas négligeable. Naturellement, pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite, pour les mamans et les papas qui ont une poussette ou un panier de provisions, et il va de soi qu'il faut prendre l'ascenseur. Mais ça fait partie des petits efforts possibles.
Une demande pourtant pas forcément très bien acceptée par les locataires.
C'est pas normal, c'est trop. L'essentiel, c'est ma santé.
10 centimes par trajet d'ascenseur, je suis pas forcément d'accord. Faut pas qu'on prenne en otage des personnes qui vivent là.
C'est abusé, on n'est pas des enfants, quoi. Ça va trop loin parce que déjà, avant de penser aux ascenseurs, ils devraient regarder au garage, la lumière, elle est constamment allumée 24 sur 24.
Justement, lancé dans un grand plan de sobriété énergétique, l'Opac du Rhône demande aux locataires de limiter le recours à l'éclairage manuel et va réduire prochainement la durée des minuteries afin de faire diminuer la facture EDF de 20%. Brignais, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Voilà, vous avez donc bien entendu, c'est 10 centimes à chaque fois que vous prenez l'ascenseur.
Hein. Alors, autre solution, Dimitri, bien le vélo, moyen pratique de faire des économies d'énergie dans les villes. La Première ministre présente ce matin un plan d'envergure pour inciter les Français à pédaler. L'exécutif devrait débloquer 250 millions d'euros. Une aide qui doit permettre de développer notamment les pistes cyclables ou encore les parkings à vélo.
Allez, nous partons au Royaume-Uni, le royaume qui a dit adieu à sa reine. Hier, Elisabeth II a rejoint sa dernière demeure, la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor.
Plusieurs centaines de milliers de Britanniques et de touristes se sont massés le long du convoi funéraire, des adieux en grande pompe qui ont réuni plus de 200 dirigeants du monde entier. Elisabeth II repose désormais aux côtés de son mari, le prince Philippe, décédé l'an dernier. Un chapitre vient de se fermer, un autre s'ouvre, celui du retour au quotidien. Et pour la nouvelle première ministre Liz Truss, la mission s'annonce très délicate. Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.
Fin de cette parenthèse d'unité et de chagrin partagé, la nouvelle première ministre entame vraiment son mandat cette semaine avec un premier discours à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU et un rendez-vous avec Joe Biden. Washington voit d'un mauvais œil la remise en cause voulue par Truss des règles qui régissent le commerce post-Brexit avec l'Irlande du Nord, un protocole conçu pour à la fois protéger l'intégrité du marché européen et éviter le retour d'une frontière terrestre qui pourrait fragiliser la paix. Et puis, l'annonce avait été retardée par le décès de la reine. Le Trésor britannique va présenter vendredi un mini-budget, c'est le terme employé, qui précisera les promesses de la nouvelle locataire du 10 Downing Street dans un pays où l'inflation a franchi la barre des 10%. Face aux craintes de récession qui pèsent sur l'économie britannique, Liz Truss compte doper la croissance par des baisses d'impôts. Les marchés craignent un dérapage des finances publiques britanniques. Et comme si cela ne suffisait pas, ce gouvernement, jeudi en principe, doit dire ce qu'il compte faire pour améliorer les services hospitaliers. Là aussi, Liz Truss est attendue au tournant. Londres, Stéphane Place, Europe 1.
Et vous venez de l'entendre, Liz Truss qui sera présente à New York pour l'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. La guerre en Ukraine et ses conséquences, notamment sur le plan alimentaire, seront au cœur de cette semaine diplomatique. Emmanuel Macron s'exprimera à la tribune de l'ONU en soirée.
Il sera aussi question de l'Éthiopie. On en parlera avec Vincent Hervouet tout à l'heure à 7h40. Pour l'heure, 7h04, l'ouverture à Marseille du procès de l'accident de car scolaire de Mias.
Les barrières du passage à niveau étaient-elles levées ou baissées? C'est la question centrale du procès qui s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Marseille. 14 décembre 2017, un car scolaire s'engage sur la voie de chemin de fer. Il est violemment percuté par un train régional qui le coupe en deux. Le bilan est lourd, 6 collégiens tués, 17 autres blessés. Une seule prévenue dans ce dossier, la conductrice du bus, elle maintient sa version. Elle n'a pas forcé le passage. Compte rendu d'audience de notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat.
Le flou perdure. L'ancienne conductrice maintient sa version des faits à la barre. Vêtue de noir, ses réponses sont courtes, la voix plaintive. Avant de s'effondrer en larmes, Nadine Oliveira assure qu'au passage à niveau, les barrières étaient bel et bien levées sans aucun signal visuel ni sonore. Les parents des victimes en quête de vérité, comme Fabien Bourgeonnier, sont déçus.
Je n'ai pas envie d'entendre pleurer, moi. C'est moi qui pleure depuis 5 ans. C'est ma femme qui pleure depuis 5 ans. Pas elle. Je m'en fous ce qu'elle pleure. Ce que je veux, c'est des choses concrètes. Après, voilà, si on nous avait apporté la preuve que les barrières étaient ouvertes depuis 5 ans, c'est ça que je demande. Moi, je ne demande rien. Moi, je ne veux pas un coupable spécifique. Je veux qu'on m'explique exactement ce qui s'est passé pour pouvoir travailler dessus, que ça ne se reproduise plus.
D'autant que deux témoins présents de l'autre côté du passage à niveau ce jour-là ont contredit une fois encore la version de Nadine Oliveira. Selon eux, le bus avançait au pas et poussait la barrière de sécurité. La conductrice ne se rendait compte de rien. Les audiences se poursuivent aujourd'hui avec notamment les témoignages de certains adolescents passagers de l'autocar qui tiennent à s'exprimer à la barre. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et fin du procès prévu le 7 octobre, jugement en délibéré attendu avant Noël. La conductrice risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Au Mexique, un tremblement de terre réveille les superstitions. On parle désormais de la malédiction du 19 septembre.
Ah oui, la terre a encore tremblé hier à Mexico. Séisme d'une magnitude de 7,7, bilan 1 mort mais aucun dégât majeur. L'adverbe encore prend ici tout son sens. Ce 19 septembre marque l'anniversaire de deux autres séismes bien plus meurtriers, ceux de 1985 et 2017. Simple coïncidence, disent les scientifiques, mais les habitants sont plutôt perplexes. Et Gwendolina Duval, vous êtes notre correspondante dans la capitale mexicaine. C'est vrai que cela a de quoi étonner quand même.
Oui, moi la première, je n'y croyais pas. Surtout qu'on venait déjà de descendre, hein, moins de 40 minutes plus tôt pour faire un exercice, une simulation de tremblement de terre. Sauf que là, bah, ça tremblait vraiment et puis ça tremblait fort. Chez moi, par exemple, toutes les plantes se balançaient dans tous les sens dans l'escalier quand je descendais. Je perdais l'équilibre et je me cognais contre les murs. Et du coup, bah, partout, c'est la sidération à Mexico. Encore un tremblement de terre, hein, 19 septembre. On se dit que c'est pas possible. C'est une date que tous les Mexicains commencent à maudire. On a eu le 19 septembre 1985 où la ville a été en partie rasée, puis en 2017 un autre séisme qui cette fois-ci a fait des centaines de victimes, là encore un autre quasiment à la même heure. Donc en ce moment il y a une vague de superstitions énorme qui s'installe dans le pays et on cherche quelque part des explications pour essayer de comprendre ce qui vient de nous arriver.
Gwendolina Duval, correspondante d'Europe 1 au Mexique.
Allez, le football, début du rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine dans une ambiance que l'on a connue plus sereine.
Un climat pollué par les affaires Pogba et les révélations sur les graves dysfonctionnements internes à la Fédération française révélées dans la presse. Noël Le Graët est notamment accusé de harcèlement sexuel par des salariés. La ministre des Sports a réclamé un audit pour faire la lumière. Invitée d'Europe 1 Sport hier soir, la présidente du Comité national olympique et sportif français, Brigitte Henriques, l'assure, l'affaire ne sera pas étouffée.
Franchement, dire que la Fédération a eu une volonté de cacher quoi que ce soit, elle a saisi le parquet. Donc ça veut dire qu'on est allé emmener cette affaire au pénal. Donc ça montre bien que ces actions, il n'y avait aucune volonté, encore moins de ma part, de pouvoir cacher ou enterrer quoi que ce soit. Moi, depuis toujours, j'ai lutté contre les violences sexuelles. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Et je vous le redis encore une fois, l'OCNEOSF, c'est ma priorité, de pouvoir lutter contre ce fléau-là. Et je m'associe pleinement à ce qui est fait par le gouvernement aujourd'hui et qui continue, parce qu'on est tous responsables, individuellement et collectivement, et on doit enrayer ce fléau, pas que dans le sport. Dans la société aussi, on doit l'enrayer.
La présidente du CNOSF, Brigitte Henriques, invitée d'Europe 1 Sport hier soir.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. Europe 1 Sport, tous les soirs, 7 jours sur 7, 20h, 23h sur Europe 1. Dans un instant, ce sera notre quart d'heure écho de la matinale. On va parler des transports publics avec Nicolas Bouzou. Et si la gratuité, c'était la solution? Pas si évident que ça. On parlera également des retraites dans un instant avec Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail. Faut-il une nouvelle réforme? À tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Les retraites auront-elles connu une énième réforme d'ici Noël? Olivier Dussopt, ministre du Travail, a reçu hier les partenaires sociaux. Tous sont ressortis du rendez-vous avec la nette impression qu'une mesure rapide était en préparation. Bonjour Bernard Vivier.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales et syndicales. Ce retour des retraites dans le discours gouvernemental depuis une semaine, alors ça pose plusieurs questions d'ordre politique, d'ordre économique également. On va commencer par là. Qu'est-ce qui justifie, Bernard Vivier, qu'on se lance dans une nouvelle réforme du système des retraites aux yeux du gouvernement et d'Emmanuel Macron?
Mais deux raisons. L'une à connotation politique. Le président de la République a besoin d'exister et il reprend un thème très important à ses yeux depuis 2017, son premier quinquennat. Donc il faut faire la réforme des retraites, ça c'est sur le plan politique. Et puis sur le plan économique, la réforme des retraites est nécessaire. Vous savez, le premier grand rapport qui a posé la question fondamentale de l'avenir de notre système de retraite,
ça remonte,
c'est le livre blanc de Michel Rocard en 1991. Donc ça fait quand même une génération pratiquement que nous avons besoin de modifier le dispositif des retraites si l'on veut garder l'esprit de ces retraites, c'est-à-dire les retraites par répartition et pas par capitalisation.
Bernard Vivier, quand on lit les rapports du COR, notamment celui de 2020, le Conseil d'orientation des retraites, donc, qui est chargé de mesurer la sécurité financière du système, nous disait « Bon, c'est vrai que la situation financière n'est pas très bonne, mais il n'y a pas de menace vitale sur le système des retraites. » Alors, ce qui faisait dire aux opposants à la réforme d'Emmanuel Macron qu'il y avait en fait une intention d'austérité, il y avait une sorte d'austérité cachée derrière cette volonté de réformer les retraites.
Non, les différents rapports du COR, du Comité d'orientation des retraites, sont des rapports très factuels. Le dernier qui vient de sortir, là il y a très peu de temps,
il y a une semaine,
indique que pour l'instant ça va, nous pouvons l'exprimer ainsi de façon très familière, mais qu'attention, l'avenir devient difficile. N'oublions pas, en 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité. En l'an 2000, il n'y en avait plus que 2 pour un retraité. Et les projections démographiques indiquent qu'en 2040, il y en aura 1,5 pour un retraité. Un actif pour un retraité.
Il y a aussi que le système actuel ne finance que 8 pensions sur 10.
Oui.
Aussi. Voilà. Une dette cachée du système des retraites.
Oui, et tout particulièrement les retraites du secteur public, des fonctionnaires, où l'État, c'est nous, ce sont les contribuables, nous contribuons fortement à compléter des dispositifs qui sont devenus déséquilibrés parce qu'il y a plus de retraités dans certaines activités que d'actifs.
Oui.
La RATP, la SNCF, les industries électriques et gazières.
Donc les fameux régimes spéciaux, là.
Oui, exactement. Ces trois structures, il y a 320 000 actifs, mais il y a 350 000 retraités.
Oui.
Et on y ajoute aussi les pensions de réversion.
Alors, dans un instant, je vais vous demander, d'après vous, quel type de réforme pense Emmanuel Macron? On ne sait pas trop, mais enfin, quelle piste s'ouvre à nous? Mais avant cela, il y a la méthode. On évoque beaucoup ces dernières heures, Emmanuel Macron lui-même, la possibilité de passer par voie d'amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça sonne, je veux dire, les oppositions sont quand même relativement choquées, les syndicats disent aussi que c'est extrêmement cavalier comme méthode. Est-ce que d'abord, sur un plan strictement technique, il n'y a pas un risque juridique à procéder de la sorte, un simple amendement à un projet de loi de financement de la Sécu?
Il y a un risque juridique, mais le risque, il est éminemment politique et social et syndical. C'est-à-dire que les organisations syndicales ressentent cela comme un affrontement. Le président de la République sort le sabre pour foncer dans une réforme. Et nous le savons, les organisations syndicales ont toujours besoin d'être considérées, d'avoir le temps de la concertation.
Mais d'autant qu'Emmanuel Macron lance son Conseil national de la refondation avec cette idée de nouvelle méthode, de dialogue, etc.
Alors, corrigeons tout de suite. Les organisations syndicales disent « nous n'avons pas eu le temps de la concertation ». Halte au feu. Ça fait 5 ans que les organisations syndicales sont reçues. C'est en septembre 2017 que Jean-Paul Delevoye avait été nommé au commissaire pour la réforme des retraites. Donc, tout cela a été arrêté en mars 2020. Le président de la République a stoppé toutes les réformes à cause de la crise Covid. Il reprend le chantier. tout le travail de concertation n'a pas été effacé, est là. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, cette mesure est une mesure flash, une mesure éclair, une mesure qui permet d'économiser du temps, d'éviter même le 49-3, c'est-à-dire un passage, une sorte de passage forcé à l'Assemblée. C'est une mesure technique, c'est un outil.
Ah ben, si ça passe par le projet de loi de sécurité sociale, il y a cette possibilité du 49-3. Oui. La Constitution, depuis 2008, prévoit
bien sûr
que le gouvernement peut utiliser l'adoption, enfin, peut faire voter son texte sans débat.
Oui, voilà. Et depuis le début de la Ve République, en 1958, nous avons utilisé à peu près 90 fois le 49-3.
Enfin oui, adopter le texte sans vote, plus
voilà,
exactement.
Bien plus à gauche qu'à droite, d'ailleurs.
Alors, la réforme, justement, initialement, le projet initial d'Emmanuel Macron, on s'en souvient, c'était système par points, réforme systémique. Et lors de la campagne présidentielle, il s'est prononcé plutôt en faveur d'une réforme qu'on dit paramétrique, c'est-à-dire financière, en repoussant l'âge de départ en retraite à 65 ans. Alors, il a amendé son propos en disant on discutera peut-être 63, 64 ans. Est-ce que c'est, pensez-vous, l'option qui tient la corde actuellement, cette idée de repousser la borne d'âge de départ?
Alors, c'est ce qui est évoqué aujourd'hui. Pour autant, la réforme pour la mise en place d'une retraite par calcul à points est une demande qui vient en grande partie aussi des organisations syndicales. La CFDT, mais aussi la CFTC ou l'UNSA, poussent à une réforme par points. Et nous sommes aujourd'hui en train de nous focaliser sur la question de l'âge de la retraite, qui n'a plus un vrai intérêt si on met en place un système de retraite par points. Parce qu'un système de retraite par points permet à toute personne de dire, voilà, j'ai tant de points.
C'est une sorte de monnaie unique, hein,
exactement,
des
j'ai
retraites,
tant de points, je
points.
Prends ma retraite. Alors évidemment, pas de façon plus confortable si on a peu de points, si on a peu d'années de cotisation. Mais c'est un système plus souple. C'est du reste ainsi que les retraites complémentaires sont calculées.
Non mais j'entends bien, on avait eu ce débat en 2017, 2018, 2019. Mais aujourd'hui, dans le discours d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, il n'était plus question de réforme par points. Vous pensez que on se va plutôt donc sur une mesure d'âge, l'allongement de la durée de cotisation. On a la réforme Touraine qui est en cours, qui doit nous porter à 43 ans de cotisation d'ici 2035.
Hein ? Oui. Le débat sur l'âge de la retraite, 65 ans, 64 ans, Philippe Martinez de la CGT dit 60 ans. Oui. Bon, c'est un débat éminemment politique. Techniquement, le passage par points permet d'éviter ce débat qui est un débat très politique. Techniquement, le passage d'un dispositif actuel vers une retraite par points est un passage très efficace. J'entends. Qui, rappelons-le, est utilisé pour les retraites complémentaires et réclamé aussi par des organisations syndicales.
J'entends ce que vous dites, Bernard Vivier. Merci d'être venu nous éclairer sur le retour des retraites dans le débat public. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonne journée à vous. Il est 7h20.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito Éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Alors on va parler transport public avec vous. Prenez-les plutôt que la voiture, le TGV. Enfin, prenez le TGV aussi plutôt que l'avion. C'est le leitmotiv en ce moment de la politique française des transports. Il faut décarboner.
Eh oui, hein, prendre des trains alimentés par une énergie nucléaire qui n'émet pas de CO2, eh bien cela semble frapper au coin du bon sens dans le cadre d'une stratégie de décarbonation des transports. Le bilan carbone par passager d'un déplacement est évidemment plus bas en train qu'en avion ou qu'en voiture. Le problème, Dimitri, vous l'avez peut-être remarqué pendant les vacances, c'est le prix. Hein. Quand vous partez en vacances en TGV, vous avez parfois l'impression d'acheter une rame de train plutôt qu'un billet de train. Problème du prix d'ailleurs qui commence à se poser de plus en plus pour les transports publics. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a commencé à préparer les esprits à une augmentation du prix du pass Navigo. Hein. L'abonnement mensuel est aujourd'hui à 75,20 €. Il pourrait facilement monter de 15-20%. On comprend bien la région Île-de-France. Hein. Elle doit répercuter au moins en partie sur les prix la hausse des coûts de l'électricité.
Je crois que la facture monte et est multipliée par 4 en ce qui concerne les transports en Île-de-France. Alors dans ce contexte, certains proposent la gratuité des transports. Et ça a été fait par exemple dans certaines communes en France, mais aussi en Allemagne.
Oui, Dimitri, c'est pile la fausse bonne idée. Dans un papier absolument remarquable qui a été publié hier dans le quotidien L'Opinion, l'économiste Emmanuel Combes montre que cette gratuité, ou même d'ailleurs la solution moins radicale d'une forte baisse des prix, poserait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Emmanuel Combes explique que le niveau élevé du prix des billets de train est la résultante de la situation du marché du transport ferroviaire. L'engouement pour le train, pour diverses raisons, les embouteillages, des choix écologiques, cet engouement se traduit par une hausse de l'utilisation de ce type de transport, en particulier pendant les périodes de pointe. Le réseau ferroviaire est parfois carrément saturé, on le vit tous. Alors si vous baissez le prix, vous augmentez encore la demande et les phénomènes de saturation. Vous n'aurez pas plus de trains, mais vous aurez des transports bondés et sans doute davantage de pannes. En fait, il n'existe qu'une seule solution pour résoudre le problème du prix, augmenter l'offre de transport ferroviaire, augmenter le nombre de trains en circulation. Et c'est possible très rapidement, c'est ce que montre Emmanuel Combes. Il y a des technologies qui sont disponibles, qui permettent en toute sécurité de diminuer par exemple l'espacement entre les TGV. Autre proposition, il serait possible pour l'État de diminuer le prix des péages ferroviaires pour augmenter le nombre de trains à grande vitesse en circulation.
Alors, si on a toutes ces belles solutions, pourquoi on ne les utilise pas, Nicolas ?
Vous me permettrez une hypothèse personnelle, Dimitri.
Oui,
les technologies dont je parle sont devenues un standard européen. Les concurrents de la SNCF ont l'air de dire que notre entreprise nationale adopte ces standards au ralenti pour freiner l'arrivée de trains étrangers dans l'Hexagone. Finalement, il est possible que le voyageur français paye le coût de l'énergie, bien sûr, mais aussi le retard technologique de notre réseau et le manque de concurrence. On ne le répétera jamais assez, Dimitri, la concurrence, c'est l'ami du travailleur.
Voilà, c'est bon pour faire baisser les prix. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. 7h23 sur
C'était Europe 1. L'édito Éco avec HelloWork, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à HelloWork. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
Le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
En pleine crise de l'énergie, nous sommes plus de 7 Français sur 10 à être favorables à une limitation de la température à 19 degrés chez nous cet hiver. Résultat d'une étude Opinionway, les Échos. Combien êtes-vous dans votre voiture en train d'écouter Europe 1 ce matin ? Eh bien, selon Vinci Autoroute, plus de 85% des automobilistes roulent seuls le matin. Et puis à 2 mois du mondial, la Fédération française de foot s'engage à réviser la Convention des droits à l'image des joueurs, alors qu'hier Kylian Mbappé a annoncé refuser de participer à la séance photo prévue aujourd'hui avec l'équipe de France.
Cet adversaire,
allô Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Il y a 30 ans, jour pour jour, le 20 septembre 1992, les Français approuvaient par référendum la ratification du traité de Maastricht. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors le texte prévoyait l'euro ainsi qu'un approfondissement de la construction européenne. La campagne de Maastricht, elle fut passionnée et jusqu'au bout, son issue fut incertaine.
En effet, c'est un modeste oui à 51%. Jusqu'à la veille du scrutin, les sondages donnaient le oui et le non à égalité. Le président de la République, François Mitterrand, prononce un discours de victoire, en quelque sorte, quelques heures plus tard.
Nous venons de vivre l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays.
Quelques temps plus tôt, les Danois ont dit non au traité de Maastricht. Les Irlandais, eux, disent oui. La France, par ce choix, renforce, selon François Mitterrand, sa sécurité.
Et consolide la paix dans une région du monde si cruellement déchirée par la guerre. Mais elle démontre aussi et surtout qu'elle est encore et toujours capable d'inspirer l'Europe en mesure désormais d'égaler les plus grandes puissances de la terre.
Et à propos de l'idée d'une monnaie européenne commune, à l'époque, on ne l'appelle pas encore l'euro, mais l'écu.
Alors, 2 semaines avant le référendum, un débat télévisé oppose François Mitterrand à Philippe Séguin.
Oui, un débat entre le président de la République et un député de l'opposition. Débat organisé dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. Certains Français peu convaincus se rallieront à l'idée d'une construction européenne après ce débat. Et pendant des semaines, politiquement, les partisans du oui se sont opposés à ceux du non. Comme le député Philippe de Villiers, par exemple, qui parle en août 92 d'une Europe impuissante en pleine guerre en Yougoslavie.
Qu'est-ce que ça veut dire, cette Europe qu'on nous vante comme une Europe de la paix, alors qu'à 2 heures de Grenoble, il y a la guerre et il y a des camps de concentration. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette Europe impuissante qui nous explique qu'on ne peut rien faire, sinon envoyer des ambulances ? Eh bien, c'est un mensonge de chercher à faire croire aux Français qu'avec Maastricht, les choses iraient mieux.
Et on découvrira quelques jours après le référendum que les élites étaient en majorité favorables au oui et les classes populaires plutôt ralliées au non.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, pour cette page d'histoire. Dans un instant sur Europe 1, la météo d'Anissa Haddadi et le journal.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
À la une, c'est une dépense contrainte, votre abonnement au transport en commun à cause de la crise de l'énergie. Les tarifs vont augmenter dans plusieurs villes. Reportage, explication dans un instant. Une affaire politique et judiciaire. Le parquet de Lille ouvre une enquête autour du cas Adrien Quatennens. Le député du Nord a reconnu avoir giflé sa femme lors d'une dispute. Et puis on vous présentera Monsieur Tang Yu, patron d'une entreprise chinoise qui travaille jour et nuit, sans salaire. Mais comment ça fait-ce ? Rendez-vous à la fin du journal. Le journal Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. C'est un geste que vous venez peut-être de faire là, à l'instant. Validez votre passe Navigo au tourniquet. Attention, hein, mise en scène. Avant de grimper dans votre métro ou votre RER, tous les jours, 4 millions de Franciliens utilisent cet abonnement au transport en commun.
Alors justement, face à la crise énergétique, combien cet abonnement va-t-il vous coûter l'année prochaine ?
Valérie Pécresse se pose la même question. La présidente de la région Île-de-France planche sur une piste. Augmenter le tarif de 75 à 100 euros par mois. Une hausse en décalage avec la qualité du service. C'est ce qu'ont répondu les usagers croisés par Louise Douillet pour Europe 1.
Pour les banlieusards, c'est vital, le passe Navigo.
Vital, indispensable petite carte bleue et grise, sans laquelle Jeanne ne peut tout simplement pas rejoindre la boutique de Châtelet-Léal où elle travaille.
Moi, j'habite dans le 91. Je vais devoir payer quoi qu'il arrive, je ne peux pas dire non, il va falloir faire un petit effort en plus. Quoi.
Difficile à accepter, surtout pour ceux qui, comme Michel, ne peuvent se tourner vers d'autres modes de transport.
On n'a pas réellement le choix. Personnellement, moi et mon collègue ici, on a une école qui se trouve dans le 77. De ce fait, on est obligé de prendre ce passe Navigo, on ne peut pas y aller en vélo. Sinon, je pense que je l'aurais fait. Mais c'est à peu près 1h40 en vélo.
Et pour ceux venus de province, comme Aya, le pass Navigo représente une dépense incompressible déjà très élevée.
C'est ma première année ici en région parisienne. Avant, j'étais à Angers, je payais 18 euros l'abonnement. Donc, du coup, là, mon abonnement a été multiplié par deux.
Reste à espérer que cette hausse tarifaire s'accompagnera d'une amélioration de la qualité de service. Les Franciliens réclament des transports plus propres, plus fiables, plus fréquents, moins bruyants.
Louise Douillet a noté que la moitié de l'abonnement au transport en commun est prise en charge par votre employeur.
Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
Du service économie d'Europe 1, on parlait à l'instant d'Île-de-France, Baptiste, mais dans d'autres grandes agglomérations, il faut aussi s'attendre à une élévation des tarifs. Hein.
Oui, ils vont augmenter. Avec la hausse des prix de l'énergie, la baisse de la fréquentation et des investissements massifs, la région Île-de-France doit trouver 950 millions d'euros pour 2023. Alors oui, le pass Navigo augmentera au 1er janvier. Même chose à Lyon, deuxième réseau de transport en France. Le budget énergie est déjà passé de 40 à 50 millions d'euros en un an, sans oublier qu'il faut, là aussi, continuer à financer les investissements. Alors à Lyon, également, le prix du ticket va augmenter. Sujet sensible aussi à Bordeaux, à Toulouse, même si les prix ont déjà augmenté au 1er septembre, sans lien avec l'inflation, ou encore à Nantes.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Et puis à noter à Rennes ce matin l'inauguration d'une deuxième ligne de métro qui pourra transporter jusqu'à 100 000 passagers par jour.
Alors les transports en commun ont le mérite de limiter notre empreinte carbone au quotidien. C'est loin en revanche d'être le cas du métavers.
Oui, on parle de ce monde en 3D, un internet augmenté grâce à la réalité virtuelle où des entreprises rêvent de s'implanter. Le métavers, c'est même le thème d'un salon organisé jusqu'à ce soir au Palais des Congrès de Paris. Un monde à construire avec déjà un souci: son impact environnemental. Car oui, Louise Salé, le numérique pollue et pas qu'un peu.
Oui, Internet, c'est actuellement 5% de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre et ce sera bien plus dans quelques années, explique l'expert en sobriété numérique Frédéric Bordage.
On se rend compte qu'entre 2010 et 2025, nos impacts numériques vont être multipliés par 3. Imaginez qu'à l'échelle de chacun et de chacune d'entre nous, nous ayons triplé en l'espace de 15 ans nos impacts environnementaux associés à notre alimentation, à nos déplacements. En fait, on serait déjà effondré comme civilisation. C'est sans prendre en considération cette nouveauté finalement du métavers.
Le métavers ou métaverse en anglais rajoutera des centres de données, des data centers et des écrans nécessitant encore plus d'énergie et plus de métaux, extraits majoritairement en Chine.
Il va falloir 1000 fois plus de puissance informatique, donc ça veut dire mécaniquement 1000 fois plus de data centers. C'est impossible en fait de multiplier le nombre de data centers, de fabriquer suffisamment de casques de réalité virtuelle, de multiplier la taille des réseaux aussi pour faire passer toutes ces images très haute définition en temps réel, puisque a priori nous n'aurions pas suffisamment de ressources, des métaux, pour fabriquer la réalité matérielle de ce monde. monde virtuel.
Pour ce spécialiste du numérique responsable, le métaverse ne peut être durable. C'est pourtant le thème d'une discussion organisée aujourd'hui au Forum.
Louis, elle est 7h35, c'est la grand-messe diplomatique de la planète. L'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre à New York aujourd'hui. Et derrière la tribune, il y aura Emmanuel Macron qui prononcera un discours dans l'après-midi.
À 6000 km de là, en France, un autre sujet captive en ce moment la classe politique.
Oui, l'affaire Adrien Quatennens qui embarrasse, on peut le dire, les Insoumis. Le coordinateur de l'EFI a giflé sa femme lors d'une dispute liée à leur séparation. Il l'a reconnue dans un communiqué. Depuis, le député du Nord s'est mis en retrait du parti. Nouvel épisode, Victor Chabert, avec cette fois l'intervention de la justice.
Oui, une enquête a été ouverte dès que le parquet de Lille a été informé du contenu de la main courante. Une procédure qui s'inscrit dans le cadre d'une politique pénale volontariste pour le traitement des violences conjugales que le parquet de Lille dit avoir mise en place depuis de nombreuses années. En cas de dépôt d'une main courante et lorsque les faits paraissent le mériter, les policiers doivent contacter les services du procureur de la République pour obtenir des instructions. Céline et Adrien Quatennens disent avoir appris par voie d'avocat que le parquet s'était saisi des faits. Cette affaire fait tanguer la NUPES. Le retrait du bras droit de Jean-Luc Mélenchon compromet l'hégémonie de la France insoumise au sein de la coalition de gauche. Désormais sans leader naturel pour remplacer le candidat à la présidentielle septuagénaire, cela ouvre la voie aux divisions internes pour prendre la tête de LFI et aiguise l'appétit des partis alliés, socialistes ou écologistes, qui se verraient bien devenir les principaux porte-drapeaux de la NUPES.
Victor Chabert.
Voilà, et invité de l'émission C'est à vous sur France 5 hier soir, Sandrine Rousseau a affirmé avoir reçu chez elle longuement une ex-compagne de Julien Bayou qui aurait tenté de se suicider. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à 8h40 dans le club de la presse Europe 1. Pour l'heure, 7h36, une idée à présent qui va faire trembler plus d'un patron ce matin sur Europe 1.
Oui, remplacer le PDG de son entreprise par, tenez-vous bien, un robot, tout simplement. C'est ce qu'a fait une entreprise en Chine. Insolite, on peut le dire. On fait les présentations avec notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belzic.
Il s'appelle Tang Yu et prend donc la tête de l'une des plus grandes entreprises chinoises de jeux vidéo, NetDragon. Un patron pas comme les autres puisqu'il s'agit en fait d'un robot, un humanoïde virtuel guidé par une intelligence artificielle qui doit permettre d'optimiser les performances de l'entreprise, notamment par des prises de décision rationnelles et totalement transparentes puisque ce robot évidemment n'a aucun sentiment. Simon Leung est vice-président de NetDragon.
Tang Yu au départ va nous aider dans le domaine de la gestion et de l'administration, ainsi que dans les questions opérationnelles, parce que nous utilisons déjà l'intelligence artificielle pour de nombreux tâches afin de développer nos activités.
Placer un androïde à la tête d'une entreprise, c'est aussi un avant-goût des univers virtuels, le métaverse, qui se développe actuellement partout, aussi bien dans les jeux vidéo, le commerce en ligne et désormais l'entreprise. Un monde dans lequel on navigue via un système de réalité virtuelle. Et puis, plus terre à terre, autre avantage de Tang Yu, il devient le premier PDG au monde en service 24 heures sur 24. Pour lui, pas besoin de repos ni de salaire. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
Voilà, un patron, c'est le premier serviteur de son entreprise. Sachez-le, oui. Roman. Voilà, merci beaucoup. Il fait pas de notes de frais, celui-là, en plus.
Exactement, c'est l'avantage aussi. 7h38, peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question qui donne un peu le vertige, on peut le dire. Quelles espèces pourraient dominer la Terre une fois que l'homme aura disparu? J'ai peut-être un début de réponse pour vous ce matin.
Je suis au roi des fous, Mimi dans trop des petits.
Alors non, hein, Dimitri, ce n'est pas Michel Polnareff qui va dominer le monde une fois que les hommes auront disparu, mais bien les fourmis. Il y en aurait 20 millions de milliards sur la planète.
Oui, mais elles sont toutes petites.
Oui, voilà. Mais elles sont très importantes. Elles ne servent pas juste à gâcher nos pique-niques, elles sont cruciales pour notre écosystème et aussi pour détecter des cancers. C'est une piste creusée en ce moment.
Pour détecter les cancers.
Oui, tout à fait, par leur odorat, c'est une piste creusée par le CNRS.
Voilà, vous vous rappelez ce que disait, pas dire de bêtises, il me semble que c'était Albert Einstein, si les rats faisaient 20 kilos, ils seraient les maîtres du monde. Imaginez des fourmis
oui.
de 20 kilos.
Oui, ouais, j'imagine hein très bien. Ils sont 20 millions de milliards en plus.
Merci beaucoup, on leur a de dire des âneries. Merci beaucoup, Roman Hockey. On vous retrouve tout à l'heure à 9h dans un instant. L'édito international de Vincent Hervoy est en pleine assemblée générale. L'ONU soupçonne des crimes contre l'humanité dans la province du Tigré en Éthiopie. Soupçonne, c'est un euphémisme. Tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Dans un instant, les perles de culture de nos deux explorateurs du jour. Nicolas Caro pour les livres. Bonjour,
bonjour
Nicolas. Et Caroline Speller pour les jeux vidéo. Bonjour, bonjour. Caroline. Alors je ne sais pas si vous vous êtes coordonnées
non,
ce matin, mais
non,
unité.
Oui.
non pas de thème mais de ton, puisqu'on sera gothique avec vous, Nicolas. On sera post-apocalyptique avec vous, Caroline. Et avec Vincent Hervouette dans la Détente internationale. Oui, au même tragique, on peut le dire. Vincent, effectivement, vous nous parlez ce matin de ce rapport au vitriol qui dénonce à l'ONU la guerre qui a repris en Éthiopie ces dernières semaines.
Oui, la guerre au Tigré est une guerre à huis clos, sans pitié. C'est une guerre faite aux civils, une guerre particulièrement cynique, celle d'un homme qui est prix Nobel de la paix. En 2019, les jurés suédois auraient mieux fait de distinguer le président éthiopien Abiy Ahmed comme prix Nobel de la guerre, prix Nobel de la sale guerre. Il avait à peine empoché le chèque et la médaille qu'il lançait son armée à l'assaut des rebelles, des traîtres, des saboteurs, autrement dit des Tigréens, les anciens maîtres du pays revenus dans leur province et accusés de dissidence. Bref, une guerre préventive contre une engeance malfaisante, une guerre avec viol collectif, massacre, nettoyage ethnique, tout un cortège d'atrocités.
Alors, le rapport remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU dénonce, je cite, plusieurs cas de violation des droits fondamentaux qui peuvent constituer des crimes contre l'humanité.
Ce qui laisse toujours pensif avec les experts onusiens, c'est l'usage du conditionnel, la fausse prudence dont ils s'entourent, cette langue de bois bien vernie. Quand ils dénoncent les restrictions à l'accès humanitaire au Tigré, il faut comprendre que l'armée éthiopienne boucle la région et organise la famine. Elle interdit aux ONG d'approcher les Tigréens qui ont besoin d'aide, c'est-à-dire 90% d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 6 millions de civils qui crèvent de faim. Ce calvaire a duré un an et demi. Depuis 4 semaines, c'est pire. Après des mois de trêve, l'armée d'Addis Abeba bombarde la province rebelle. La famine ne devait pas aller assez vite.
Les experts des Nations Unies, Vincent, sont particulièrement choqués par l'ampleur du drame et par sa durée.
Ils ont découvert que le gouvernement éthiopien et son allié érythréen commettaient des crimes contre l'humanité pour des motifs ethniques. Ils découvrent la Lune. Ils ont eu du mal à la trouver, la Lune, parce qu'ils sont restés encalminés à Addis Abeba. Ils n'avaient pas le droit de quitter la capitale. Le rapport détaille longuement les entraves au travail des enquêteurs. À force, ils ont dû admettre que le pouvoir se moquait d'eux. Est-ce que l'Éthiopie ferait comme la Chine qui s'est moquée des enquêteurs de l'OMS sur le Covid? Eh bien, pourquoi pas? C'est un géant, l'Éthiopie, un géant de 120 millions d'habitants, la vraie capitale du continent puisqu'il y siège l'Union africaine. C'est le plus vieux pays chrétien au monde, avec l'Arménie. Une mosaïque d'ethnies, de langues, de religions qui forment un univers à part, avec son propre alphabet, son calendrier qui commence le 11 septembre.
Alors, ils ont réalisé, les experts de l'ONU, que le président roulait tout le monde dans la farine, Vincent.
Abiy Ahmed est un homme des services secrets, devenu un homme politique. Il est habitué aux calculs cyniques, il avance masqué. La violence ne lui a jamais fait peur. Il a noué un pacte avec le tyran voisin, Isaias Afwerki, l'alcoolique qui règne sur l'Érythrée. Et c'est pour cette paix soudaine qu'il a obtenu le Nobel. Double erreur, fatale erreur. Les deux voisins n'ont pas fait la paix. Ils ont décidé ensemble de faire la guerre aux Tigréens. Le brevet de moralité du jury Nobel a fait taire tous les opposants. Il a servi de blanc-seing. Abiy Ahmed s'en est servi pour conforter son pouvoir en exacerbant la haine ethnique et le ressentiment alors qu'il avait promis la réconciliation. La guerre est la quintessence de l'enfer, avait-il dit à Oslo en recevant le prix. C'est bien vu, mais personne n'a imaginé qu'il était prêt à aller le vérifier lui-même.
Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h46.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Allez, le livre du jour, Nicolas Caro. Ce matin, on change un peu de registre. On était beaucoup dans les enquêtes policières, les meurtres ces derniers temps. Vous avez un roman gothique à nous présenter ce matin, une histoire de fantômes.
Dans ce genre-là, oui. Ça s'appelle Le Château des Trompe-l'œil aux éditions de La Martinière, signé Christophe Bigot. Mais avant d'ouvrir ce livre, un mot sur la couverture quand même. Magnifique, rouge, rigide, cartonné avec au centre un cercle découpé, comme si on regardait par le trou de la serrure. La tranche du livre est bleutée en plus.
C'est vrai.
D'abord un très bel objet.
Est-ce que c'est un bon roman?
Un bon roman. Je vous raconte, ça se passe dans la baie du Mont-Saint-Michel en 1837. Ça commence comme Dracula, vous vous souvenez? Un jeune clerc de notaire, Baptiste Rivière, se rend au château d'Escreuil pour recueillir, rédiger le testament de la propriétaire des lieux, la baronne d'Escreuil. Enfin, faire l'inventaire en tout cas de ses biens. Et il y en a des biens, des tableaux, des livres, beaucoup, beaucoup. C'est un travail de plusieurs semaines. Alors Baptiste s'y met, il compte, il évalue, il inventorie. Mais dès la première nuit, quelque chose de bizarre se produit. Il se réveille et il entend un air d'opéra. Le barbier de Séville, d'après lui. Le lendemain, il croise l'intendant, il lui en parle, mais non, ça doit être le vent. lui répond-il. Et d'ailleurs, il est étrange aussi, Langlois, l'intendant. Mais enfin, de toute façon, lui, il disparaît assez vite. On ne sait pas trop où il est parti. Peut-être qu'il va revenir. Il y a Simon aussi, le jardinier, encore plus étrange. Et Séverine, la bonne particulière aussi.
Et la baronne ?
Encore pire, Baptiste ne l'a pas encore vue. Et il a bien l'impression qu'il ne la verra jamais. On lui dit qu'elle est souffrante tout le temps. Mais il y a quelque chose de pas normal. Alors un soir, Baptiste prend un flambeau et envisage de visiter le château nuitamment.
C'est la couverture.
On a peur, mais on a tort. Puisque cette nuit-là, pas de baronne, je vous laisse découvrir.
Alors la question c'est, qui est cette baronne? Est-ce qu'elle vit recluse?
Exactement, elle a une histoire tragique. Le baron, son mari, a été guillotiné pendant la Révolution en essayant de la sauver, elle. Elle a réussi à récupérer le château, mais ne s'est jamais remariée. Et peu nombreux sont ceux qui l'ont vue depuis. Je vous le dis, à un moment, on se demande même si elle existe vraiment. C'est un des enjeux du livre. Il faudra le découvrir au détour des chausse-trappes, des couloirs sombres et des escaliers de pierre. C'est ça ce qui est bon dans ce livre. C'est une sorte de jeu avec les romans gothiques. C'est un peu régressif. Ça rappelle les histoires qui font peur. C'est délicieux. C'est comme plonger une cuillère dans le Nutella. Et puis alors regardez, dans le même esprit, il y a des illustrations. Comme dans les livres 19e, on s'y croirait un peu partout dans le livre.
Voilà, je redonne le titre. Le château des trompe-l'œil, signé Christophe Bigot. Et effectivement, si vous le voyez sur l'étal de votre libraire, je pense que vous ne pourrez pas le manquer.
Oui, ça donne envie tout de suite.
C'est un bel objet, c'est chez La Martinière. Merci beaucoup Nicolas. Caroline, le jeu vidéo maintenant. Alors, Man pour le cinéma,
oui.
Ça commence à se voir, hein, vraiment.
Oui.
Mais de plus en plus aussi pour la télévision, pour les plateformes.
Hein. Oui, quand on sait qu'en 2021, le jeu vidéo, c'est un chiffre d'affaires mondial de 175 milliards de dollars, eh ben, on voit vite le potentiel. Hein. Et après plus de 50 ans d'existence, le jeu vidéo n'est plus un loisir réservé qu'aux enfants et ados. Et non, la preuve en France, l'âge moyen des joueurs est de 38 ans.
Alors, je disais, ça attire forcément les studios, les plateformes de streaming. À quoi on le voit? Quelles sont les séries phares, si je puis dire?
Alors, il n'y a qu'à voir Netflix. Parmi ses succès, il y a la série animée Arcane qui reprend l'univers du jeu League of Legends, un jeu de stratégie gratuit en ligne, ou encore Paramount avec la série Halo disponible en France sur Canal+, et qui s'inspire des jeux de science-fiction militaire de la console Xbox de Microsoft, avec le Master Chief.
Alors, question, est-ce que ça fait le jeu vidéo de bons films et de bonnes séries?
Alors, oui. Alors maintenant, oui. Maintenant, oui. Avant, c'était pas vraiment ça. Hein. Mais maintenant, on va dire que...
Lara Croft... Oui, si, Lara Croft, ça a bien marché.
Warcraft, c'était pas terrible.
Alors, ça, c'est plutôt un film. Et maintenant que les sociétés de jeux vidéo, en fait, sont dans la création, maintenant, ça devient vraiment meilleur. Et franchement, quand on voit la série la plus attendue en 2023, The Last of Us... HBO produit cette adaptation, ce n'est pas un hasard, car dès sa sortie en 2013 sur PS3, ce jeu est devenu culte. Culte pourquoi? Parce que le cœur de The Last of Us, ce n'est pas son challenge en tant que joueur, mais sa narration. Et ça commence...
Film dont on est le héros, en fait, The Last of Us.
C'est ça, mais sauf que là, on est actif, on n'est pas passif. Et en fait, ça commence par une petite pandémie qui transforme les humains peu à peu en monstres. Le monde plonge alors dans le chaos.
Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine.
Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours.
Alors, on suit 20 ans plus tard Joël, un survivant devenu trafiquant, embauché pour faire sortir Ellie, une orpheline de 14 ans, d'une zone de quarantaine. Une mission finalement qui finit en road trip d'un an à travers une Amérique dévastée et brutale. Alors, manette en main, qu'est-ce que ça donne? C'est un jeu d'action et de survie à l'ambiance post-apocalyptique, violent et cru, à l'image des comics et séries The Walking Dead, si vous connaissez. Mais ce qui nous prend aux tripes, Dimitri, c'est la relation poignante père-fille qui naît au milieu d'un environnement impitoyable, où finalement, les monstres ne sont pas ce que l'on croit. The Last of Us, partie 1 du studio Naughty Dog, compte parmi ces jeux qui ont transformé la façon de raconter une histoire et surtout à nous faire ressentir des émotions. Alors, si jamais vous l'avez raté à l'époque, foncez sur son remake optimisé pour la PS5, car 9 ans plus tard, il est plus que jamais un incontournable de jeu vidéo, je dirais même un chef-d'œuvre.
Voilà, donc j'ai rien compris, c'est pas une série,
non,
c'est
mais
un film.
Elle rajoute une jolie histoire alors qu'elle a juste envie de tuer des zombies comme tout le monde. Il n'y a pas de honte.
Mais avec beaucoup d'émotion, c'est la différence.
Ça rappelle un peu le livre aussi de Cormac McCarthy, La route. Hein, qui avait été adapté au cinéma aussi, ça avait été un très grand succès. Vrai. Merci à tous les trois, mon cher Vincent, Nicolas Caro, Caroline Speller, à la semaine prochaine, 7h52.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent Alban Leprince.
Dans le Nord, la police annonce à l'instant qu'un agent se trouve dans un état grave, percuté après un nouveau refus d'obtempérer cette nuit. Selon Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat des commissaires de police, l'auteur présumé qui transportait de l'héroïne a été interpellé. Les dirigeants du monde entier à New York, à partir d'aujourd'hui, pour l'Assemblée générale des Nations unies, il sera question de la guerre en Ukraine, des catastrophes climatiques ou encore l'insécurité alimentaire. Et en Ukraine, justement, la découverte du charnier d'Izioum est un mensonge, selon le Kremlin, alors que Kiev assure avoir découvert plus de 440 tombes dans une forêt près de la ville ukrainienne.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro, la reine, encore la reine, toujours la reine. Bon, vous n'en avez pas un peu marre, Alexis? Vous n'avez pas le sentiment que les médias dont nous sommes en font un peu trop avec la reine Elisabeth II?
Oui, mais de quoi voudriez-vous que je vous parle, cher Dimitri? Des démêlés conjugaux d'Adrien Quatennens? De la bataille de titans au RN entre Jordan Bardella et Louis Alliot? Du choc Ciotti-Retailleau? De la nécessité urgente et impérieuse de rebaptiser la REM Renaissance? Franchement, moi je préfère la reine et je crois que nos auditeurs aussi. Alors c'est vrai, il y a parfois quelque chose d'un peu ridicule dans la monarchite aiguë qui, de ce côté de la Manche, s'est emparée des commentateurs. Tous ces émerveillements de midinette, ces torrents de Royal Guimauve sont, reconnaissons-le, un peu agaçants. Il est vrai aussi que, si on regarde les choses froidement, il y a comme une sorte de disproportion entre le caractère dithyrambique de ses hommages et le legs politique effectivement laissé derrière elle par Elisabeth II. Bon, rappelons tout de même que l'essentiel de son activité de reine consistait à prononcer chaque année un discours qu'elle n'avait pas écrit et dont pas une ligne, pas un mot ne reflétait sa pensée. Alors c'est vrai qu'à cette aune, on peut comprendre ceux qui jugent qu'on la célèbre un peu trop. Et pourtant, si on renonce un instant à jouer les esprits forts, il me semble malgré tout que le message politique de ces funérailles, que ces funérailles envoient à l'Angleterre et au monde, que ce message mérite d'être médité.
Alors qu'est-ce que c'est que ce message? Comment vous le définiriez, Alexis?
Je dirais trois mots. La beauté, la continuité, la dignité. La beauté hier, c'était une évidence, pas la peine d'insister, elle était partout. Elle va bien au-delà des bonnets à poils, des cimiers à plumes, des héros d'âme, des archers qui étaient magnifiques par ailleurs. Mais la beauté, c'est un état d'esprit, c'est un ordonnancement des choses. Au fond, c'est une liturgie au sens propre du terme, c'est-à-dire un dispositif symbolique qui, en ces temps de laideur satisfaite, parle au cœur des hommes parce qu'il les reconnecte au sacré. La continuité, elle aussi, elle était prise partout, à chaque instant dans cette cérémonie, où le moindre détail, du glas sonné par Big Ben, à la canne cassée sur le cercueil de la reine, où tout ça témoigne d'une réalité immuable, venue d'un très lointain passé. Au fond, c'est tout l'inverse de l'injonction capitale de notre temps, changer. Changer encore et toujours, changer pour changer. Il semblerait bien que les peuples et les rois ne soient pas entièrement de cet avis.
Et est-ce que la République française, Alexis, pourrait s'inspirer de ses vertus?
Alors, notre République, on a beau la dire monarchique, il faut bien reconnaître qu'en matière de décorum, elle a un peu de mal à rivaliser. C'est pourtant pas faute d'essayer. Souvenez-vous de François Mitterrand et de ses roses dissimulées derrière les piliers de la crypte du Panthéon. Ou d'Emmanuel Macron, tel un pharaon dans la cour du Louvre au soir de sa première élection. Ou de la musique du professionnel pour enterrer Belmondo. Alors, on sent qu'il y a un effort, mais c'est pas vraiment ça. La République est laïque, et en matière de liturgie, c'est pas de sa faute, et il lui manque toujours un petit quelque chose, ou alors elle en fait un peu trop. Et sur ce sujet, pour elle, reconnaissons-le, c'est pas gagné. En revanche, il n'en va pas de même de la troisième vertu que j'évoquais à l'instant, la dignité. Cette dignité dont chacun reconnaît, à juste titre, et la cérémonie d'hier en fut le reflet, cette dignité qu'Elisabeth II avait portée au plus haut point. Avec cette dignité, il n'est pas question là de régime politique, c'est une question de disposition personnelle. Rien n'interdit à un responsable républicain de pratiquer cette exigence envers soi-même, ce sacrifice de son égo, dont la reine a montré l'exemple. Mais aujourd'hui, nos hommes politiques se veulent libres. Elisabeth II n'était pas libre, elle était au service de son peuple. C'est différent. Et je vais vous dire, Dimitri, moi je crois que plus que de trompettes, de chapeaux à plumes et de tenues chamarrées, il me semble que c'est surtout de cette dignité que les Français, aujourd'hui, ont la nostalgie.
Merci beaucoup Alexis Brézet du Figaro. Je signale la une de votre journal. Évidemment, les funérailles d'Elisabeth II, photo pleine page, splendeur et recueillement, 8 pages de reportage et d'analyse. Merci à vous. 7h57.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation
réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Et à suivre dans Europe Matin, juste après le journal de 8h au micro de Sonia Mabrouk ce matin, c'est Eric Woerth, le député Renaissance de l'Oise, qui sera avec nous.
Europe 1. 7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Il est 8h01 et à la une de ce journal, on les appelle le deuxième cerveau, les intestins. Ces inconnus, des chercheurs français ont décidé de les passer à la loupe car figurez-vous, ils pourraient avoir un lien avec un très grand nombre de maladies. Explication dans un instant. Les Nations Unies au chevet d'un monde en crise à compter de ce mardi. Au menu de l'Assemblée Générale de l'ONU, la guerre, la crise énergétique, discours d'Emmanuel Macron dans l'après-midi. Et puis Kylian Mbappé, plus fort que la Fédération Française de Foot, accord sur le droit à l'image hier entre les deux parties. Enfin, une bonne nouvelle à deux mois de la Coupe du Monde au Qatar à 8h13. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après une parenthèse royale qui a bien plu hein, Alexis Brézé, si on a bien entendu son édito, eh bien on va replonger dans le bain social français avec une réforme des retraites qui braque tout le monde et une crise énergétique qui inquiète tout le monde. Notre invité, c'est le député Renaissance et ex-président de la Commission des Finances, Eric Woerth.
À tout de suite. Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes peut-être encore à l'heure du petit-déj, mais savez-vous vraiment ce qui se passe une fois votre repas avalé ? Sur Europe 1, ce matin, on a décidé d'ouvrir le dossier des intestins. Sans eux, la digestion serait impossible, organe encore mystérieux dont plusieurs chercheurs français veulent percer les secrets. Et pour ça, l'INRAE, les hôpitaux de Paris et AgroParisTech ont lancé une vaste étude baptisée French Gut, ça veut dire intestin français. Bonjour Yasmine Akatou.
Bonjour.
Vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. On a tous des intestins différents, il faut le préciser. L'enjeu pour ces scientifiques, c'est de parvenir à cartographier les bactéries qui cohabitent dans nos boyaux, parce que mieux les comprendre, c'est s'assurer une meilleure santé.
Oui, notre deuxième cerveau, comme le surnomment les scientifiques, a un rôle prédominant sur notre bien-être général. Les milliards de micro-organismes qui peuplent notre système digestif influent sur notre sommeil, sur la survenue de maladies comme Parkinson, Alzheimer ou encore le développement de cancers. Le but sera de comprendre à quel point le microbiote influe sur certaines pathologies. À terme, les connaissances sur nos intestins permettront d'agir de manière préventive, explique l'un des responsables de l'étude, Robert Benamouzig. Il est chef du service gastro-entérologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
L'objet du French Gut, ça va être un, de pouvoir faire des diagnostics anticipés et surtout d'identifier, même avant le développement de la pathologie, des situations qui prédéterminent de façon à essayer d'intervenir. Donc c'est aussi, pourquoi pas, du traitement dans le sens de rééquilibrer du microbiote qui pourrait être pathologique en microbiote qui pourrait être sain.
Bon, pour mener cette étude, Yasmina, il faut des dons de sel. Les chercheurs espèrent en obtenir 100 000 d'ici 2027. Concrètement, comment on peut participer ?
Eh bien, vous pouvez aider la science depuis chez vous. Il suffit de vous rendre sur le site lefrenchgut.fr. Après avoir répondu à quelques questions sur vos habitudes alimentaires, vous recevrez chez vous le matériel nécessaire pour le prélèvement, comme un kit pour le dépistage du cancer colorectal. Tous les Français majeurs sont invités à participer, quel que soit leur état de santé. Certaines conditions sont à respecter, comme ne pas avoir subi une coloscopie ou pris d'antibiotiques 3 mois avant le don.
Yasmina Katou.
64 ou 65 ans, l'âge de départ à la retraite n'en finit plus d'alimenter les débats.
Hier, à l'issue de leur réunion avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, les 5 centrales syndicales ont été claires. Si le gouvernement fait passer sa réforme en force dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le dialogue sera rompu.
À demain, c'est à Matignon que le sujet sera débattu. Elisabeth Borne va recevoir les chefs de groupe parlementaires.
Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Jacques, cette réforme des retraites et le calendrier que veut imposer l'exécutif provoquent la colère des syndicats, des oppositions et divise même au sein de la majorité. Bon, dans ce contexte, l'exécutif pourrait-il enterrer cette réforme ?
Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose en Macronie. C'est compliqué, avoue un conseiller de Matignon. Emmanuel Macron a fixé le cap la semaine dernière. C'est une réforme qui s'impose, selon lui. Mais voilà, le patron du Modem, François Bayrou, s'est dit opposé à tout passage en force. Et depuis, les voix dissidentes se multiplient jusque chez les marcheurs. Alors oui, il y a une marge de manœuvre pour que la réforme entre en vigueur à l'été 2023. Il y a la possibilité possibilité pour l'exécutif de l'intégrer au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais à quel prix ? Elisabeth Borne n'a aucune certitude d'obtenir la majorité sur un tel amendement. Elle n'aurait alors d'autre choix que de recourir à l'article 49.3 pour faire passer le texte sans débat. Une option qui signerait l'arrêt de mort du CNR, le Conseil national de la refondation. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, menace d'en claquer la porte en cas de réforme à marche forcée. Mais Emmanuel Macron a-t-il vraiment envie d'aller au clash en pleine crise inflationniste et énergétique ? Pas si sûr. Le spectre du passage par voie d'amendement a tout d'un ballon d'essai, décrypte un conseiller ministériel, comme si l'enjeu pour Emmanuel Macron était davantage d'afficher sa volonté réformatrice pour mieux dénoncer la situation de blocage.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Un policier sérieusement blessé hier soir à Anzin dans le Nord.
Il a été percuté par un véhicule qui aurait refusé un contrôle des douanes et pris la fuite, touché au dos et aux jambes. Son pronostic vital n'est pas engagé. Selon le porte-parole du syndicat des commissaires de police, Mathieu Vallet, le conducteur interpellé transporté de l'héroïne.
Europe 1, 8h06, chasser le quotidien, il revient, le quotidien, chasser le naturel ou le quotidien ?
Le quotidien,
il revient au galop. Après 10 jours de deuil et les obsèques de la reine Elisabeth II, les Britanniques sont à nouveau confrontés ce matin à ce qu'ils appellent la cost living crisis, la crise du pouvoir d'achat.
Et oui, eux aussi, ils doivent y faire face. Avant la mort de la reine, on s'en souvient, le pays était déjà au bord de l'explosion sociale. Les grèves ont été suspendues le temps des adieux. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres en direct avec nous ce matin. Pour les Britanniques que vous avez rencontrés, les difficultés économiques, c'est une réalité, elles sont dans toutes les têtes.
Oui, effectivement, c'est bien ce que j'ai ressenti hein, hier soir en discutant avec quelques-uns d'entre eux, notamment autour de Hyde Park à Londres. Il y a ici, vous le savez, une inflation à plus de 10%, une crise énergétique galopante, des mouvements sociaux très durs sur les salaires. On l'a vu dans les transports il y a quelques semaines. Bref, les problèmes vont ressurgir et cela très vite, selon Eileen, qui d'ailleurs a suivi hier ses obsèques avec une certaine distance.
Ils n'ont jamais disparu. Les problèmes demeurent. La monarchie n'y a jamais rien changé. C'est le problème du gouvernement. Et celui-là, il est affreux.
Et ce retour au réel, c'est aussi ce qui inquiète Kathleen. Elle, c'est une jeune retraitée qui s'interroge sur l'avenir de son pays.
Ce sont des temps tellement difficiles pour le Royaume-Uni. Et ce qui me chagrine, c'est qu'Elisabeth ne pouvait pas mourir à un pire moment. Maintenant, on ne sait pas trop dans quelle direction va le pays. J'espère que ce sera la bonne.
Et pourtant, ce mouvement d'union nationale autour de la reine et du nouveau roi, Nick, lui, veut y voir le signe que le royaume, finalement, est capable de surmonter toutes les crises.
Les gens ont vu ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Et peut-être qu'ils vont réfléchir sur ce que l'union du pays peut apporter. Et ils se diront, oh, peut-être qu'il y a de la force et de l'unité dans ce pays.
En attendant, le journal Le Sun, ce matin, fait remarquer que ces obsèques ont coûté plus de 10 millions de livres, alors que les Britanniques, écrit-il, risquent d'avoir faim et froid cet hiver. C'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, 6 millions d'entre eux vont recevoir une aide au pouvoir d'achat de 150 livres, environ 170 euros. Pas sûr que cela éteigne ce que l'on appelait les grèves de la colère, qui avaient éclaté à la fin de l'été, avant effectivement d'être suspendues à la mort de la reine.
Merci Lionel Gougelot, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.
Et à New York, le discours d'Emmanuel Macron attendu cet après-midi devant la 77e Assemblée générale des Nations Unies.
Hier soir, le chef de l'État a dîné en tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ce soir, il détaillera ses priorités diplomatiques, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron doit s'entretenir aujourd'hui également avec son homologue iranien, alors que l'accord sur le nucléaire a de moins en moins de chances d'être conclu et que d'importantes manifestations se tiennent dans le pays après la mort d'une femme détenue par la police des mœurs.
Allez, on passe au football. Les Bleus sont à Clairefontaine à 2 jours d'un match de Ligue des Nations qui les opposera à l'Autriche.
Et dimanche, ils affronteront le Danemark. Le tout à vivre en direct, évidemment, dans Europe 1 Sport. Mais dans quel état d'esprit sont nos Bleus ? Bonjour Cyril de la Morinerie.
Bonjour.
En direct de Clairefontaine pour Europe 1, les Bleus bousculés par l'affaire Pogba, privés de beaucoup de joueurs blessés et marqués hier par le bras de fer entre Kylian Mbappé et la Fédération Française de Football.
Oui, franchement, on a connu une atmosphère plus sereine pour préparer la Coupe du Monde. Évidemment, en apparence, les joueurs ont le sourire, j'ai pu le constater hier à l'entraînement. Mais en coulisses, il y a quelques tensions, notamment, vous l'avez dit, sur le fameux droit à l'image. Kylian Mbappé, qui a boycotté hier la photo, a finalement gagné son bras de fer à l'issue d'une réunion à Clairefontaine avec Noël Le Graët. La fédération s'engage à revoir la convention qu'il a liée avec les joueurs. Kylian Mbappé, qui souhaite avoir un droit de regard sur les entreprises choisies, participera aux opérations marketing aujourd'hui.
Alors, on le disait, Cyril, beaucoup de joueurs sont aussi Messi forfait pour les matchs à venir. On est à 2 mois pile de la Coupe du Monde. La situation est très compliquée pour le sélectionneur. Là, hein.
C'est une hécatombe. Plus d'une dizaine de joueurs forfaits. Benzema, Pogba, Kanté, Kimpembe ou encore Rabiot notamment. Et même le capitaine Hugo Lloris. Didier Deschamps comptait faire des réglages avant la Coupe du Monde. Eh bien, c'est raté à la place. Il va essayer de nouveaux joueurs, parmi lesquels l'attaquant Randal Kolo Muani, à la fois surpris et heureux d'avoir été appelé.
Je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, ouais, c'est très très fort parce que là, tu as une nation qui est derrière toi, qui a 2 étoiles sur le maillot. Donc pour moi, là, c'est plus qu'un rêve. Là, c'est plus qu'une Ligue des Champions, je pense.
Et un autre joueur espère aussi en profiter, c'est Olivier Giroud, l'éternel revenant qui n'est plus qu'à 3 buts d'égaler le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Thierry Henry.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, Eric Woerth est l'invité de Sonia Mabrouk. À tout de suite. 8h13, votre invité Sonia Mabrouk est députée Renaissance de l'Oise, c'est aussi un ancien ministre du Budget, du Travail, ancien président de la Commission des Finances à l'Assemblée.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Eric Woerth.
Bonjour.
Est-ce que vous avez ce matin des tentations pyromanes ?
Et pourquoi ?
Parce que les syndicats vous accusent de vouloir mettre le feu dans le pays avec la réforme des retraites.
Non mais il faut se calmer on a besoin d'une réforme des retraites à peu près tous les 10 ans parce que on a un grand système par répartition qui est magnifique, celui-là il faut le conserver. Est-ce qu'on a un tout petit peu réfléchi que c'est la plus belle des justices, c'est-à-dire qu'une génération paye les retraites d'une autre et pense que les générations qui viendront paieront la sienne, donc c'est une chaîne de solidarité sociale qui est magnifique et ça il faut le protéger vraiment d'une façon extrêmement importante.
Évident,
et donc on a
Eric
besoin
Woerth.
Régulièrement,
on a besoin
mais parce que la démographie change, parce que et dans le système c'est très important, parce que les conditions économiques également changent, la productivité du travail change, donc les recettes et les dépenses ne sont pas les mêmes, et la garantie du système c'est évidemment d'être équilibré.
Évidemment, mais
c'est la première des justices d'ailleurs, c'est
corps,
l'équilibre, on doit cet équilibre aux générations futures.
Le corps, les différents rapports du corps du Conseil d'orientation des retraites, vous devez les lire attentivement, il est clairement dit que ça tient malgré tout, que la sécurité financière tient encore.
Bon,
en 2027,
oui, bien sûr, ça tient encore parce
déficit.
Qu'on a beaucoup changé le système pendant des années, en 2010 et puis un peu plus tard. Et ça nécessite des réglages, mais ce n'est pas suffisant. On voit bien que structurellement, et le corps le dit, mais les rapports du corps, ils varient aussi beaucoup chaque année.
D'où
vous
la
savez.
Confusion
très bien.
Et l'accusation que vous dramatisez les choses.
On a besoin, oui, mais on a le droit de ne pas être court-termisme. Et le court-termiste, ça ne fonctionne pas pour un système par répartition. Il faut regarder à 10 ans, 15 ans, 20 ans. 25 ans, c'est ça la réalité d'un système comme celui-là, c'est pas pour lundi prochain. Tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas urgence, ben si, il y a urgence pendant 20 ans, il y a urgence pendant 10 ans, il y a urgence à changer les choses pour qu'on soit persuadé que dans 10 ans, le système soit équilibré et que la variable d'ajustement du système ne soit pas le niveau de votre propre retraite, de votre propre pension.
On va en parler,
donc il faut
réforme,
savoir se projeter. On est un monde dans lequel on ne se projette
mais
plus.
Le fond
on
et
a
la
besoin
forme,
de se projeter et pas uniquement sur le système
J'entends.
De retraite.
La méthode, beaucoup aussi. Même de la majorité s'inquiète, enjoignent le président à ne pas confondre vitesse et précipitation, comme François Bayrou, ici même, sur Europe 1 ce dimanche. Il a tort.
Chacun peut avoir son opinion. Moi, je pense qu'il n'y a aucune précipitation à faire une réforme rapidement. Alors, ça peut passer par la loi de financement de la sécurité sociale. C'est
Attendez, ça ne vous choque pas.
Qui a toujours été ouverte. Non, ça ne me choque pas.
Ça ne me choque pas.
Et la loi de financement de la sécurité sociale. On est bien dans un sujet de financement de la sécurité, d'un des
pas.
Régimes de la sécurité
Monsieur
sociale.
Eric
c'est-à-dire
Woerth,
le régime général.
La réforme
général.
Des retraites ne devrait pas faire l'objet d'un grand débat. Est-ce que ça devrait passer
Mais
ainsi par un amendement ?
Elle fait l'objet d'un grand débat permanent. On parle tout le temps du système de retraite en France. Donc, on en a parlé d'ailleurs au moment où la réforme de 2019 a été portée, puis a été stoppée. Elle était difficile à mettre en œuvre et difficile à comprendre pour les Français. Donc, il faut quelque chose de beaucoup plus simple. Et puis, on en parle depuis. Tout le temps, on parle des retraites. Donc, il y a un moment donné, honnêtement, le sujet, il est surétudié
attendez,
et surdiscuté.
Eric Woerth vient de lancer le Conseil national de la refondation.
extrêmement bien, écoutez, on connaît extrêmement bien les positions des uns et des autres. Et on sait bien qu'à un moment donné, par exemple pour augmenter l'âge, il n'y a aucun consensus. Les syndicats n'en veulent pas. On le sait parfaitement
Eric
bien.
Eric Woerth, écoutez-moi, sur la méthode, il y a quand même quelque chose qui nous interpelle. Comment le président peut lancer là le Conseil national de la refondation pour le dialogue, pour le consensus, vantant une nouvelle méthode, et en même temps, vous, ce matin, vous nous dites tranquillement qu'on peut passer en force et que ça peut être un amendement dans le projet
mais
de loi de financement de la sécurité sociale.
Mais c'est tout sauf un passage en force. C'est une caricature, ça. C'est tout sauf un passage en force. C'est un débat permanent et constant dans la société française. Quel système de retraite à un moment donné, quand on a besoin de décider, il faut décider. Et d'ailleurs, si jamais ça passait par une loi de financement de la sécurité sociale, ou si ça passe par un texte autonome un peu plus tard, ou si ça passe par deux textes, on peut avoir la loi de financement de sécurité sociale qui arrête un certain nombre de paramètres, et puis quelques temps après, une loi sur les conditions générales de la retraite. Donc tout ça fera l'objet d'un débat.
La loi
de financement
de sécurité
sociale, mais la loi de financement de sécurité sociale, elle a besoin, elle fait l'objet d'un débat au sein du Parlement, elle fait l'objet d'un débat dans la société. Enfin,
Si ça passe par un amendement.
Il n'y a aucune précipitation, on en parle tout le temps. On en parle tout le temps.
Attendez,
on n'a
jamais parlé autant,
et d'ailleurs, on en parle trop, pour tout vous dire. On politise trop les choses.
Éminemment politique. Mais alors, dites-nous, si on en parle beaucoup, mais on ne sait pas de quelle réforme il s'agit. Est-ce que c'est une réforme sur l'âge légal de départ? Est-ce que c'est une réforme sur l'accélération? Est-ce que c'est l'accélération de la réforme Touraine avec un allongement de la durée de cotisation?
Vous savez, c'est pas éminemment politique. En réalité, c'est que soit on veut, si on simplifie les choses, soit on veut un système par répartition. Et il y a des conditions d'âge qui sont fondamentales, parce que votre durée de vie à 65 ans, votre durée de vie, heureusement d'ailleurs, elle s'allonge au fur et à mesure du temps, et vous ne pouvez pas tout faire payer par les générations qui, elles, ont bien d'autres choses également à payer pour elles-mêmes. Donc ce système-là, on doit aux jeunes générations qui payent les retraites de ceux qui sont à la retraite, on leur doit le respect du paiement et le fait qu'on ne met pas des charges insupportables sur leurs épaules. Et puis, il y a tous ceux qui disent il faut des retraites à la carte, il faut partir à tout moment, un peu quand on veut. Ça, c'est pas la répartition, ça s'appelle la capitalisation. C'est un gros mot en France, mais c'est la capitalisation. Et beaucoup confondent les deux. Dans un grand système par répartition, il y a des paramètres, l'âge, la durée de cotisation, des choses comme ça, qui devraient pouvoir être arrêtés quasiment automatiquement, sans débat, parce que c'est une question de justice.
La question est de savoir si on veut un système par répartition ou un système par capitalisation.
Mais on veut un système par répartition. Moi, je veux un système par répartition. Et pour qu'il y ait un système par répartition, il faut réformer régulièrement, améliorer, mais réformer aussi les paramètres qui sont fondamentaux du système par répartition. Tous ceux qui pensent qu'on peut faire autrement, à ce moment-là, ils sont en réalité souvent des défenseurs d'un système par capitalisation,
Reconnaissez que c'est fort de café de dire que la réforme des retraites n'est pas un sujet éminemment politique. Vous le savez très bien en tant qu'ancien ministre. Vous cherchez ce matin à dépolitiser ce sujet qui est vraiment, c'est même consubstantiel à notre pays.
Non, vous vous trompez.
Les syndicats et les oppositions qui se trompent.
Je peux donner mon opinion. Le sujet des retraites, c'est pas aujourd'hui le réglage du système par répartition, le réglage des paramètres qui permettent de dire qu'il est autonome sur le plan financier, donc il est juste, parce que s'il n'est pas autonome, il n'est pas juste, devraient presque s'afficher automatiquement en fonction de la durée de vie, en fonction de la productivité du travail, en fonction de l'espérance de vie. Tout cela pourrait être fait. On pourrait arrêter des méthodes automatiques de modification. Bien sûr. On pourrait se dire que quand l'espérance de vie augmente beaucoup, le système, évidemment, évolue. L'automaticité peut être arrêtée par une décision politique, évidemment, toujours le cas. Mais on peut aussi ne pas systématiquement en faire l'alpha et l'oméga des discussions. D'autant plus que notre pays, il a besoin de discuter de beaucoup d'autres sujets.
La
transition écologique est un sujet absolument fondamental qui va changer les modes de vie.
Eric Woerth, on parle de cette réforme des retraites parce que la crise énergétique aussi frappe de plein fouet les populations. C'est en cela qu'il peut y avoir des tensions sociales. Le gouvernement a annoncé donc une hausse des tarifs contenus à 15%, un maintien du bouclier, des chèques énergie. C'est des mesures de protection, mais est-ce que vous dites aussi ce matin que c'est un quoi qu'il en coûte tarifaire énergétique qui se justifie?
On a besoin de protéger les Français les plus modestes, mais la vraie protection des Français, c'est au fond des réformes structurantes, de véritables réformes. C'est la modification de nos consommations énergétiques, de modification de notre capacité de production. Oui, mais il faut accélérer les choses. Cette crise permet d'accélérer les choses, et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Et à côté de ces grandes transitions, à côté de ces énormes transitions, on franchit étapes.
Mais qui va
vie.
Payer là? Le bouclier tarifaire, il s'élèvera à 16 milliards d'euros nets pour les finances publiques, dont 11 milliards pour le gaz en 2023. Le chèque énergie reprend un coût de 1,8 milliard d'euros.
Partir de ces grandes transitions, on a besoin aussi de les accompagner par une forme de transition sociale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas suivre. Et c'est vrai, c'était vrai avant l'augmentation considérable des prix de l'énergie. Elle ne fait que renforcer les choses. Ça doit accélérer le changement de consommation.
J'allais vous demander ce matin, il est où Eric Woerth?
On doit faire de la croissance, mais on doit la faire probablement autrement. Ce n'est pas un débat nouveau. C'est un débat qui est souvent très ancien. Probablement, les conditions de production d'ailleurs ont changé dans les
J'entends
entreprises,
bien. Ma question,
on doit continuer à le
il
faire.
Il est où Eric Woerth qui sonnait à chaque fois, qui tirait la sonnette d'alarme quand on
Mais je tire la sonnette d'alarme, mais
apparemment...
on était à une époque où il y a plein de gens qui tirent les sonnettes d'alarme et qui n'en tirent aucune conclusion. Donc moi, quand je tire la sonnette d'alarme, j'essaye d'en tirer des conclusions. Et les conclusions, elles sont assez simples, il faut protéger celles et ceux qui sont les plus modestes et probablement cibler encore plus les dispositifs. Et il faut, de l'autre côté, accélérer la réponse aux causes de cela. Donc il faut des transitions de plus en plus rapides, et les Français ont besoin d'une visibilité sur la façon dont ils vivront dans les années
J'entends.
Qui viennent. Et les Français en ont besoin, mais ils en ont besoin aussi au niveau européen et sans doute au niveau mondial.
Les réponses aux causes sur le nucléaire, il y a une grande responsabilité de nos gouvernants. François Hollande qui a acté de la fermeture de Fessenheim, Emmanuel Macron qui a exécuté cette décision. Pourquoi ne pas reconnaître tout simplement une erreur? Pourquoi ne pas reconnaître qu'Emmanuel Macron a dû opérer un virage tardif à 180 degrés?
J'étais dans l'opposition à l'époque, j'étais pas favorable à la fermeture de Fessenheim, évidemment. Mais ça, c'est le passé. On adore se pencher sur le passé.
Parce que nous avons des conséquences aujourd'hui.
Je trouve qu'il y a des commissions d'enquête qui sont en train de se constituer. Il y a tous ceux qui sont très très forts en diagnostic et très très faibles en solution. Moi, j'aimerais qu'on soit très très forts en solution. C'est ça qui m'importe.
Vous parlez de la commission d'enquête menée par Olivier Marleix, qui va d'ailleurs auditionner l'ancien président Nicolas Sarkozy.
On passe son temps à faire des commissions d'enquête. Je préférerais pour LR qu'il soit plus fort en solution qu'en diagnostic ou qu'en nostalgie. Ce qui est très très important, c'est qu'on soit à la hauteur des enjeux. Il y a des enjeux considérables. C'est pas vrai à tout moment, c'est pas vrai pour toutes les générations, c'est pas vrai pour tous les gouvernements. Jamais probablement gouvernement n'a eu à affronter, en dehors des périodes de guerre, une solution aussi complexe, quel que soit
c'est
l'endroit où on
regarde.
C'est
parce qu'il est mis en cause.
Donc,
la question, c'est est-ce que sur le nucléaire,
de franchir des étapes
Monsieur
considérables.
Verbe,
et nous avons besoin
français.
Et nous avons besoin du nucléaire. Enfin, il n'y a pas de gâchis français, puisqu'on est un des pays où il y a les plus grands nombres.
Vous venez de dire que vous avez regretté la fermeture de Fessenheim.
Mais ne résumez pas tout à Fessenheim. On construit des EPR avec des difficultés considérables. C'est très difficile de construire un EPR. On a tous très très bien compris cela. Mais en même temps, on reste une puissance qui conserve ses capacités technologiques du nucléaire. Et c'est tant mieux, et on a besoin d'investir, on a besoin de former, on a besoin de construire.
Il faut du temps pour ça. Savez-vous combien de temps il faut pour ouvrir une centrale en France, les procédures administratives, pour relancer une filière?
Vous me dites sur les retraites, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, il n'y a pas d'urgence. Et maintenant, vous me dites sur le nucléaire, il y a de l'urgence, c'est dans 10 ou 15 ans. Il y a de l'urgence surtout, parce qu'on a besoin de décider aujourd'hui des choses qui produiront souvent leurs effets dans les années qui viennent.
Mais je vous dis ça parce que vous dites qu'il faut une vision. Est-ce qu'on a une vision sur le nucléaire?
Nous avons besoin d'un court-termisme en protégeant les catégories sociales les plus modestes. C'est une vision à court terme. C'est une vision qui est insupportable sur le plan financier à long terme. Donc la seule solution, c'est de changer nos modes de production et d'acquérir plus de souveraineté et d'autonomie.
J'ai entendu tout à l'heure un coup de griffe à vos anciens amis des LR. Vous vous interrogez toujours à ce qui se passe au sein du parti, les LR qui se cherchent un chef aujourd'hui ?
Oui, enfin, je regarde, je veux dire, c'est toujours la même histoire. On repart sur une primaire pour désigner un président. Enfin, j'ai abandonné l'appareil politique. J'ai pas abandonné ma famille politique.
Vous êtes bien Renaissance, non ?
J'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné l'appareil politique, l'appareil de LR. J'ai pas abandonné mes propres idées, j'ai pas abandonné mes convictions. Je suis un homme de droite républicain depuis longtemps et je continue à faire. J'ai juste considéré que l'appareil qui portait ces idées-là était un appareil qui s'était trompé et qui se trompait. Ben, on l'a vu au présidentiel, on peut regarder comme ça s'effondrer le nombre d'électeurs sans jamais se poser de questions ou en rabâchant toujours les mêmes idées. Et il y aura une sorte de primaire qui permettra à un président d'être élu et puis on verra bien. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de réussir d'être à la hauteur des enjeux. Notre génération, de droite ou de gauche, elle doit réussir face aux défis qui sont les nôtres. Et ces défis, ils ont jamais été honnêtement aussi considérables depuis bien longtemps.
Vous lisez de droite et de gauche, on va conclure par une question qui permettra justement à Dimitri de faire la transition avec la suite et le débat qui vient. Une question autour du député de la NUPES, Adrien Quatennens, avec l'ouverture d'une enquête pour violence sur conjoint. Il est député, il y a l'affaire judiciaire et l'affaire politique. Sandrine Rousseau voudrait qu'il ne parle plus à l'Assemblée, eu égard aux victimes de violences. Le député que vous êtes pense la même chose ?
Écoutez, il s'est exprimé, M. Quatennens, je ne sais pas s'il y aura une enquête ou pas, il s'est retiré de ses fonctions. Bon, il y aura des sanctions, sans doute, j'en sais rien, quand il y aura une enquête, on verra ce qu'elle...
Et politiquement, ce respecter n'est pas tout au sein ça. De l'Assemblée
enfin,
quelque
Madame,
chose qui vous
Madame
interpelle.
Rousseau est plus écologiste du tout, c'est un procureur, voilà, sans les diplômes et sans la compétence d'un procureur, donc c'est en général très très dangereux. Vous savez, il y a un gigantesque besoin d'autorité et de sens, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui résoudre, gigantesque besoin d'autorité et de sens et de citoyenneté. Chacun se demande à un moment donné quel sera son rôle pour faire changer le pays et pour faire changer l'Europe. Et dans la transition écologique, dans les modes de consommation énergétique, et chaque citoyen a son rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'on veut une coordination et une planification écologique. Et c'est ça qui m'importe aujourd'hui.
Plus de sens. Donc merci Eric Woerth d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous.
Merci.
Merci Eric Woerth. Merci Sonia Mabrouk. Vous avez signalé que l'on parlerait de l'affaire Quatennens. Ce sera dans le Club de la Presse dans 10 minutes. Est-ce que les violences sexuelles seront le thème de la prochaine révolution à gauche ? Vaste question. On va parler de la fin de vie dans un instant avec Yann Moix également, 8h29.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Europe 8h31, l'essentiel de l'actualité, Christophe Lamar.
Ouverture de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, la guerre en Ukraine, les catastrophes engendrées par le changement climatique et l'insécurité alimentaire seront au menu de cette semaine diplomatique. Le président Emmanuel Macron s'exprimera à la tribune dans la soirée. En Ukraine, la découverte d'un charnier à Izium fait réagir Moscou. La Russie rejette toute responsabilité et parle d'un mensonge. Kiev assure avoir découvert plus de 440 tombes et une fosse commune au milieu d'une forêt. Un policier blessé après un nouveau refus d'obtempérer hier soir à Anzin, près de Valenciennes. Il a été renversé par un véhicule qui venait d'échapper à un contrôle douanier. Pris en chasse, le conducteur a alors tenté d'éviter un deuxième barrage et percuté le fonctionnaire. Interpellé dans la foulée, il a été placé en garde à vue. La crise énergétique et ses conséquences à l'université de Strasbourg. La présidence prend une décision radicale face à l'envolée des prix du gaz et de l'électricité. Elle fermera 2 semaines de plus cet hiver. Pour le personnel et les étudiants, cela se traduira par 1 semaine de congés supplémentaires et 1 semaine de cours à distance. Le lancement d'une campagne pour lutter contre l'insuffisance cardiaque le 25 septembre, c'est l'assurance maladie qui est à l'origine de cette initiative. 1 500 000 Français seraient concernés par cette maladie du cœur et leur nombre pourrait encore augmenter dans les années à venir.
Merci Christophe. Le temps.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Anissa, c'est un cocktail automnal plutôt sympa quand même. Il fait beau, pas très chaud,
et
mais
pas
il fait
beaucoup
beau.
De nuages. On peut les compter sur les doigts de la main. Si vous êtes sur la moitié sud du pays, il n'y en aura quasiment pas. Hein, vraiment, peut-être en Corse, aller du côté de Bastia, peut-être 2-3 nuages qui vont passer dans le ciel. Ils sont plus présents au nord de la Loire. Ce matin, le long des côtes de la Manche, on a un petit peu plus de nuages avec même quelques petites averses. Et puis cet après-midi, Bretagne, Hauts-de-France, région parisienne, Grand Est, Centre-Val de Loire, il y aura de temps en temps quelques passages nuageux. Mais enfin, c'est quand même une très très belle journée estivale pour cette fin d'été qui approche puisque l'automne arrive à grands pas pour ce vendredi. Côté température, toujours beaucoup de fraîcheur, 2 à 7 degrés sur les frontières du Nord et le Centre-Val de Loire, 5 à 11 partout ailleurs et jusqu'à 19 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse ce matin. Cet après-midi, 16 à 21 au nord de la Loire, 22 à 27 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 29 au bord de la Grande Bleue cet après-midi encore. C'est estival. Hein.
Merci beaucoup Anissa. Il est 8h34.
7h, 9h,
Europe Matin.
C'est l'heure des signatures sur Europe 1. Bonjour Yann Moix.
Bonjour Dimitri.
On va saluer quand même Madame Ducrot qui est juste en face de vous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri. Bonjour Yann. Bonjour à tous.
Du journal L'Opinion. Alors cocktail détonnant, piscine et impôts avec vous dans un instant. Mais d'abord Yann, un avis a été rendu la semaine dernière, le 13 septembre, par le Comité consultatif national d'éthique à propos de la fin de vie. On en a beaucoup parlé sur Europe 1. C'est votre regard ce matin. Le CCNE ne s'oppose plus à une éventuelle légalisation de l'assistance au suicide. Ça vous perturbe cette décision ?
Alors, disons qu'on avait tranché en France au sujet de l'euthanasie. On avait opté pour ce qu'on appelle la loi Leonetti, une loi qui axe tout sur les soins palliatifs, c'est-à-dire une loi qui permet de ne pas mourir avant l'heure, ce qui serait une atteinte à la vie, et ni après l'heure, qui serait un acharnement thérapeutique. Donc la loi Leonetti permettait de respecter, si j'ose dire, l'horaire de la mort, son timing.
Oui, alors pas en parlant horloge, mais on est effectivement, on le sait tous, dans quelque chose d'extrêmement périlleux, extrêmement délicat.
Oui, parce qu'une mort précoce relève du crime. Une mort tardive relève de la barbarie. Donc on est obligé de distinguer des formes de mort qui habitent côte à côte, mais n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'on est obligé de distinguer la mort hâtive de la mort tardive, la mort précipitée de la mort attardée, la mort brutale de la mort patiente, la mort qui foudroie de la mort qui louvoie, la mort qui frappe de la mort qui caresse.
Alors, essentiellement, on veut bien mourir en quelque sorte, c'est-à-dire mourir sans souffrir.
Oui, ce qu'on oppose à la mort, ce n'est plus la vie, mais c'est la douleur. La qualité de vie, si vous voulez, Dimitri, se transforme en qualité de mort. Et le présupposé de la loi Leonetti, le non-dit en fait, c'est que la mort fait partie de la vie, et non pas que la vie fait partie de la mort. C'est une position philosophique, somme toute, assez forte.
Alors, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu là ?
Oui, Dimitri, à l'heure où je vous parle, est-ce que je suis en train de vivre ? Ou est-ce que je suis en train de mourir ? Est-ce que c'est la vie le héros ou est-ce que c'est la mort le héros ? On peut vraiment se poser la question. Pour la loi française, par exemple, l'homme qui vous parle en ce moment n'est pas en train de mourir, mais il est en train de vivre. Mon état naturel, c'est d'être vivant et non pas d'être en train d'être un mourant perpétuel.
Oui. Et c'est différent en Suisse, par exemple.
Oui, on l'a vu avec Godard. Le non-dit, si vous voulez, de la loi suisse, c'est qu'en fait, en ce moment, l'homme qui vous parle, Dimitri, est en train de mourir, que mon état naturel, c'est la mort et que le vivant est un état quasiment aberrant. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, on peut accompagner quelqu'un vers la mort et qu'en Suisse, on peut accompagner quelqu'un dans la mort.
Oui. C'est pour cette même raison que le suicide assisté reste jusqu'à nouvel ordre interdit en France.
Oui, en France, les mots suicide et légalité sont des mots antinomiques.
Mais est-ce que c'est normal ?
Alors, je le crois. Le suicide, pour moi, doit rester un acte individuel, clandestin, disruptif, subversif, transgressif. Suicide et assistance sont des oxymores. Le suicide doit s'assumer jusqu'au bout seul avec lui-même, à la fois dans son indécence et sa dignité. Indécence face à ce qu'on peut appeler le miracle de la vie, comme disent beaucoup de religions, et sa dignité face au courage qu'il exige de la personne qui va commettre l'acte.
Vous êtes en train de dire, Yann, que le propre du suicide, c'est de s'affranchir des lois de la société ? Vous dites que c'est transgressif.
Dimitri, aucun citoyen ne s'est jamais suicidé. Seuls les individus se suicident. Le suicide, c'est un acte de liberté pure, ultime, absolue, qui ne doit pas être entériné par quelque institution que ce soit. Tout suicide est anticonstitutionnel. Le suicide doit rester hors la loi.
Ça doit rester transgressif. Vous êtes en train de dire qu'avec la légalisation du suicide assisté, le suicide perdrait quelque chose. C'est
exactement.
Philosophiquement intéressant.
Oui, le suicide perdrait quelque chose parce qu'il est dans le suicide un mystère qui, par essence, échappe à la rationalité du législatif. On ne peut pas, Dimitri, toujours tout encadrer, toujours tout formater, tout rationaliser, tout valider, tout usiner. Le suicide existait avant la loi, il existera après. Le suicide, c'était la dernière et ultime chose qu'on ne pouvait pas récupérer. Il est aussi absurde de le légaliser que de l'interdire. Vous imaginez, l'interdiction du suicide, ça n'aurait aucun sens. Il est aussi vain de vouloir l'empêcher que de vouloir l'accompagner. Soumettre le suicide au Parlement est aussi naïf que de mettre Dieu en équation. On peut mourir pour la patrie, mais on ne peut pas se suicider par l'État. On peut mourir pour la France, on ne peut pas mourir par la France.
Voilà, vous n'aurez pas ma liberté de mettre fin à ma vie, en fait, d'une certaine manière. C'était philosophiquement passionnant. Merci beaucoup,
Yann
Moix. Un peu raide, là, 8h38, quand même. Mais...
pas simple d'arriver derrière.
Vous êtes sur Europe 1, c'est comme ça, on réfléchit.
Il n'y a pas d'heure pour se suicider.
Demain, c'est Gaspard Proust que vous retrouverez à cette même heure sur Europe 1. Mais avant, c'est Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Restez là, Yann Moix, ça va
bien
vous détendre.
Bien sûr, plaisir.
Alors, Bercy s'est lancé dans une traque aux contribuables qui ont oublié de déclarer... que ce soit volontaire ou pas, un oubli parfois, une piscine. Et oui, le fisc utilise des technologies novatrices d'intelligence artificielle pour détecter les constructions cachées. Les algorithmes à la rescousse des contrôleurs fiscaux, c'est ça,
Oui, c'est un article fort intéressant paru hier dans le Figaro qui décrit par le menu comment les nouvelles technologies ont révolutionné le contrôle fiscal. Alors, une pincée d'analyse de données, une pointe d'intelligence artificielle tartinée sur de la photo satellite, un soupçon de cadastre passé à la moulinette et hop, les algorithmes passent tout ça à la casserole et débusquent les piscines bien cachées dans les jardins, ce qui permet au contrôleur fiscal de venir sonner à la porte.
Et est-ce que ça fonctionne ?
Bien, l'expérience a été lancée en octobre 2021 dans 9 départements français, dont les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône, où ça a été une moisson, un vrai succès, nous dit Bercy.
Des pays à piscine aussi, hein, voilà.
Plus de 20 000 piscines clandestines ont déjà été identifiées. Ça pourrait rapporter 40 millions d'euros au fisc en 2023.
Pas mal. Il fait son boulot, donc le fisc, avec des techniques modernes. On ne va pas lui reprocher ça quand même.
Non, Dimitri, mais il ne le fait pas tout seul. Et c'est là que ça devient croquignolet, parce que le fisc a fait appel à des pointures du numérique pour mettre au point sa nouvelle technique de chasse au pédiluve. Capgemini et Google ont été appelés en renfort. Les rois de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle, on ne se refuse rien, on y met les moyens. Le dispositif pour optimiser l'innovation fiscale a coûté 24 millions d'euros.
Mais attendez, Google, ils s'y connaissent en optimisation fiscale, justement.
Oh, c'est des experts, Dimitri, des experts. En 2021, Alphabet, la maison mère de Google, a enregistré un chiffre d'affaires de 258 milliards de dollars, un bénéfice de 76 milliards.
Wow.
Et en France, ça s'est traduit par un impôt sur les sociétés rikiki de 27 millions d'euros, à peine plus que le coût du dispositif fiscal de pointe pour détecter les piscines. Google profite d'une optimisation fiscale très efficace qui lui permet de déclarer ce qu'il gagne en France en Irlande. En 2019, après une plainte et un redressement, Google avait dû régler 456 millions d'euros au fisc et une amende de 500 millions après un accord à l'amiable. C'est le grand bassin au regard des 40 millions d'euros des piscines fantômes. Dans le même temps, l'Europe a énormément de mal à mettre en place une taxe sur les GAFAM, les géants du numérique, pour les empêcher de passer entre les mailles du filet fiscal.
Et qu'en est-il de Capgemini ?
Eh bien,
c'est un gros français, je le précise.
Un gros français. Mais vous savez, dans la continuité de l'affaire McKinsey, une commission d'enquête sénatoriale avait pointé que Capgemini s'en sortait aussi très bien pour optimiser ses impôts via le Luxembourg. Il a actuellement un redressement de 17 millions d'euros sur lequel il essaye d'obtenir une ristourne.
L'État est bien magnanime avec ces grands groupes. Hein.
Ouais, ça laisse un goût de Javel dans la bouche, cette histoire, comme quand on boit la tasse dans une piscine. Hein. On met en branle des moyens hollywoodiens pour choper les petits fraudeurs qui nagent avec des brassards quand les gros malins en yacht font des pieds de nez au fisc. Mais ils lui louent quand même le Zodiac à moteur pour attraper les bébés nageurs.
J'ai l'image, je tiens l'image. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Je vous dis à demain. Merci Yann Moix.
Big Brother est un triton.
Hein, oh joli, il est très en forme. À la semaine prochaine Yann.
Merci.
8h42 dans un instant, le club de la presse Europe 1, François Calfon, Eugénie Bastier. Nous allons nous saisir de l'affaire Quatennens. Ça tout de suite.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
C'est l'affaire qui déchire la gauche depuis 48 heures, l'affaire Adrien Quatennens. Sous la pression de rumeurs qui circulaient depuis près d'une semaine, le député et les filles du Nord a reconnu dimanche des violences envers son épouse. Il s'est mis en retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise et le parquet de Lille a ouvert une enquête hier à son encontre. Fin de l'histoire, mais que nenni ! Débat très vif chez les Insoumis dès lors que certains cadres, à commencer par Jean-Luc Mélenchon lui-même, hein, ont semblé davantage regretter la perte d'un camarade talentueux que la gifle et les autres violences assénées à Madame Quatennens. Vous allez voir que cette histoire, en fait, c'est une réflexion sur la Révolution, d'une certaine manière, que nous allons mener, conduire avec nos deux éditorialistes du jour, Honoré Dame. Bonjour Eugénie Bastier.
Bonjour Dimitri.
Essayiste, journaliste au Figaro. C'est ça votre titre exact, non ? Non, c'est pas ça. Non, vous êtes responsable des pages ID au Figaro.
Journaliste aux pages ID du Figaro.
Voilà. Très bien. Et passionnante interview, je le signale d'ailleurs aujourd'hui, de Jean-Louis Bourlange à propos des 30 ans de Maastricht. Et c'est vous qui l'avez interviewé. Et c'est remarquable, vraiment remarquable interview. François Calfon est aussi avec
Bonjour.
Nous. Bonjour François, éditorialiste politique, membre du bureau national du Parti Socialiste. Alors vous, membre du bureau national du PS, parti qui s'est doté, j'ai vu ça cet été, d'une commission, je crois, pour traiter les affaires de VSS, comme on dit désormais, violences sexuelles et sexistes. Juste pour donner un petit peu l'ambiance, je lisais le papier que Libération a consacré hier à l'affaire Quatennens, ça sonnait comme sa nécrologie. On avait l'impression qu'il était mort, Adrien Quatennens. Hein. Mm-hmm. Politiquement, est-ce qu'il est mort après cette histoire-là ?
Écoutez, je ne lis pas dans le marc de café. Ce que je sais, c'est qu'il est urgent de revenir à ce qui fait finalement l'essence d'une démocratie, c'est-à-dire qu'il y a une justice à peu près reconnue par tous. On l'avait d'ailleurs éprouvé dans l'affaire Coquerel avec cette fameuse commission des femmes qui finalement était moins prompte à signaler au parquet pour cause de, par exemple, agresseurs racisés, etc. Bref, revenons à une certaine forme d'objectivité. Bon, il se trouve que il y a une main courante, il se trouve que M. Quatennens reconnaît les faits qui lui sont reprochés, qu'il se met en retrait. Ensuite, puisque le parquet s'est saisi...
Non, mais ça pourrait n'être qu'une affaire de mœurs et ça devient une affaire politique.
Alors,
de
là, le problème est tout simple, c'est que quand vous décidez que finalement, au lieu d'avoir une gauche qui rassemble, qui crée du projet, qui fédère, vous avez une gauche qui dénonce, qui stigmatise, etc., il est un jour où l'arroseur est arrosé. C'est-à-dire que tous ces gens... Moi, j'ai toujours été assez prudent dans ces affaires-là. Non pas que j'ai une quelconque tolérance vis-à-vis des violences faites aux femmes, mais parce que je pense qu'il y a une justice. Vous voyez, il y a les trois pouvoirs. On a appris ça à l'école et c'est plutôt sain. Mais tous ces gens-là se sont muets. Et d'ailleurs, Mme Rousseau continue ce matin. C'est une sorte de jeu de massacre.
On va en parler.
En procureur, en Fouquet-Tinville bolchevique, qui trouve la paille dans l'œil du voisin et qui refuse de voir la poutre en face de ses yeux. Eh bien, un peu de cohérence, un peu de retenue permettrait à ces gens, parce que le Parti socialiste, vous en avez parlé, je pense que la retenue est encore parmi nous. Non qu'il n'y ait pas de violence faite aux femmes, il y en a sans doute comme ailleurs, mais nous essayons de ne pas instrumentaliser politiquement ces affaires. Et je crois que le triste tableau de la France insoumise, c'est qu'ils n'ont cessé d'instrumentaliser politiquement des combats. Et comme on dit dans le monde rural, pour monter au mât de cocagne, il faut avoir les fesses propres, ce que manifestement ils n'ont pas.
Alors, pour ceux qui auraient raté le dernier épisode, effectivement, vous avez cité Sandrine Rousseau, elle était l'invitée de l'émission C'est à vous hier soir, et Sandrine Rousseau a affirmé avoir reçu chez elle très longuement une ex-compagne de son co-religionnaire d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Je vous propose de réentendre ce que disait Sandrine Rousseau.
J'ai reçu cette femme, elle était déprimée, voire vraiment très mal, quoi. Très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal. Et donc, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Et donc...
Éventuellement, voilà, Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti.
On verra, step by step.
Voilà, step
c'est
by step.
Incroyable. Cette déclaration est incroyable parce que ce que dit Sandrine Rousseau, c'est que avoir rendu malheureuse sa femme devrait vous valoir le fait de ne plus exercer de fonction politique. C'est quand même, quand on y pense, hallucinant. Il y a le privé d'un côté et le politique de l'autre, même si je sais bien qu'aujourd'hui, à la gauche radicale, le slogan, c'est le privé et politique. Et on en voit bien les limites aujourd'hui.
Oui.
Et
moi, je précise juste qu'au Figaro, c'est une affaire au long cours, cette histoire Julien Bayou. À votre journal Le Figaro, Julien Bayou avait évoqué cette histoire de sa compagne qui allait mal. Et il avait évoqué, venant d'elle, une rancœur qu'elle ne cache pas, puisqu'elle m'a clairement écrit.
Oui, bien sûr, elle a écrit...
Voilà. Trois jours après avoir saisi la commission interne d'Europe Écologie Les Verts, inquiète-toi, je vais revenir et en force, la chute va être douloureuse. Voilà ce que cette même femme évoquée par Sandrine Rousseau écrivait à son ex-conjoint Julien
Bayou.
C'est vrai que
ce qui est compliqué dans ces affaires, c'est de démêler les assauts de vertu de la lutte politicienne et de la conquête du pouvoir. C'est aussi de la part d'une génération de militantes à la France insoumise une volonté de prendre le pouvoir et d'évincer les mâles blancs du pouvoir, ça c'est certain. Mais moi, évidemment, le geste de Quatennens est inexcusable, on ne gifle pas sa femme, un homme ça s'empêche. Cependant, moi, il y a trois choses qui me gênent dans cette affaire. La première, c'est déjà le déballage de l'intimité. Moi, je revendique, comme le dit mon amie Elisabeth Lévy, le droit de ne pas savoir. Il y a quelque chose de gênant dans ce communiqué d'auto-accusation qu'il a fait sur les réseaux sociaux, où il s'est quasiment auto-inculpé. Et je trouve ça assez gênant. Ensuite, ce qui me dérange, évidemment, c'est cette espèce de lynchage sur les réseaux sociaux. Enfin, il a beau être sans doute coupable, je n'aime pas ces effets de meute et je ne vais pas jeter ma pierre en plus. Ouais. Et ces affaires, à mon avis, doivent se régler devant les tribunaux et pas sur la place publique. Et enfin, moi, ce qui me dérange, c'est la manière dont cette affaire est interprétée par les féministes elles-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent finalement qu'il y a un continuum entre la baffe donnée sur un moment de colère dans une dispute conjugale jusqu'au féminicide, que c'est finalement la même chose que finalement Quatennens serait peut-être un Bertrand Cantat en puissance. Et c'est ça qui me dérange, c'est cette espèce de continuum où toutes les violences finalement aboutiraient au pire, alors que je pense qu'on peut hiérarchiser, on peut dire il y a un geste de colère qui est certes inadmissible, mais qui ne dit pas que forcément il y a les violences sont systémiques. Et parler de violences systémiques, de violences conjugales systémiques en politique, c'est absolument hallucinant, parce que ce que nous montre cette affaire, c'est bien que ces violences ne sont pas soutenu par le système, encouragé, mais au contraire, universellement réprouvé.
François Calfon. Bon,
tout ça a été dit avec beaucoup de brio par Eugénie Bastier, donc je n'y reviens pas. Moi, il y a une autre chose qui me dérange dans les indignations à géométrie variable. Hier, j'ai fait un tweet, vous voyez, pour soutenir la révolte des femmes et des jeunes en Iran face à une jeune femme de 22 ans qui a été tuée par la police des mœurs parce qu'une mèche dépassait de son foulard. Je pensais, et j'ai regardé sur le fil Twitter, qui n'est pas non plus effectivement la place publique, que, puisque j'ai invité les féministes, les militants des droits de l'homme à soutenir cette révolte massive. Il y a des manifestations en Iran contre le régime des Mollahs. Depuis 1979, nous n'avions pas vu une telle brèche s'ouvrir. Eh bien, je constate que je n'ai pas entendu les féministes, les militants des droits de l'homme à gauche. Certains, oui, mais pas dans cette sphère de la gauche, très clairement, soutenir cette révolte, qui, pour le coup, est un fait politique majeur. Il ne s'agit pas simplement d'une jeune femme qui a été tabassée par la police. Malheureusement, c'est le cas très régulièrement en Iran. Il s'agit d'une révolte populaire forte.
Là, ce sont les droits élémentaires des femmes dans le monde.
Moi, il me semblait... Non, mais pourquoi c'est un lien ?
Parce que c'est l'avant-garde du combat révolutionnaire aujourd'hui.
Bah, peut-être, mais est-ce qu'on politise de l'intime ? L'intime fut-il scandaleux ? Moi, je suis d'accord que ce sont aux tribunaux de régler ce type d'affaires. Monsieur Quatennens a pris une décision qui est déjà une décision importante sans que la justice se soit prononcée. Et quand vous avez des faits politiques constitués de révolte sociale et populaire, eh bien, il n'y a plus personne. Et de la même manière, j'ai envie de vous dire, on pourrait finalement revenir, on l'a déjà fait sur cette antenne, sur finalement la stigmatisation permanente des micro-gestes en matière d'environnement qui ne sont pas faits, alors que vous avez des pays entiers qui se chauffent au charbon et sur lesquels il n'y a pas de réaction des écologistes. Donc, je pense qu'on est en train de dans la gauche de la gauche, et je le regrette parce que je reste un homme de gauche, on est en train finalement de s'auto-détruire à la fois par une vertu excessive et à la fois par une instrumentalisation politique permanente à choisir de tel et tel fait pour de la carrière personnelle, pour du buzz qui est en train de tuer la politique.
Non, effectivement, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, quand on fait assaut de vertu, il faut être exemplaire, c'est certain. Mais ce à quoi ça va aboutir, c'est que finalement, pour être un homme de gauche en politique, il va falloir être un saint. Parce que aujourd'hui, vous êtes un homme de gauche.
Qui est cru, quand on sait à quel point cette gauche fut anticléricale.
Voilà, exactement. Et donc, il n'y aura pas beaucoup. Déjà que la gauche est en difficulté dans les urnes, il ne va pas y avoir beaucoup de candidats potentiels.
Il y a une figure de saint à gauche. C'est Robespierre.
Exactement, mais Robespierre était pur.
J'ai cité Fouquet-Tinville.
Robespierre était pur, il n'avait rien à se reprocher. Oui. C'était Robespierre. Voilà. Après, est-ce qu'on veut ça ? Est-ce qu'on veut des gens qui sont absolument purs, mais qui en même temps veulent aussi mettre en œuvre une épuration ? Je n'en suis pas sûre. Après, je pense qu'il y a, il y a les faits, puis il y a aussi donc cette guerre de pouvoir au sein de la guerre insoumise, de la France insoumise. Par exemple, je n'ai pas entendu les femmes insoumises s'indigner comme elles l'ont fait pour Quatennens quand Mélenchon a soutenu Tahabouaf, par exemple. Oui. On n'a pas entendu autant d'indignation.
Donc il y a Quatennens aussi qui
représente aussi un peu la droite de la France insoumise, si tant est que ça existe. Hein, c'est-à-dire une ligne plus
c'est la branche laïque, républicaine,
plus laïque, républicaine, sociale et moins islamo-gauchiste. Et je pense que ça a suscité aussi. Il s'est pas fait que des copines dans le clan de la France insoumise.
Vous savez, on voit bien, et malheureusement, moi je n'ai pas commenté les rumeurs, mais les rumeurs sur tel ou tel qui ont explosé comme autant de scandales. Quand vous êtes finalement en vue dans un certain nombre de partis de gauche de la gauche, eh bien toutes ces rumeurs-là peuvent perdurer. Elles ont perduré pendant des années. Et à un moment donné, la perspective finalement d'une succession à la France insoumise, d'un congrès Europe Écologie Les Verts, fait que, et c'est assez désolant d'ailleurs.
C'est ce que rappelle Thomas Guénolé, le politologue.
Il y a une instrumentalisation extrêmement grave, et moi je serais féministe, militante féministe, je le suis bien sûr.
Vous êtes militante féministe ?
Je suis militant féministe parce que je suis un militant de gauche, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais je m'interrogerai, c'est pas mon premier combat, et je les interpelle, je m'interrogerai sur cette instrumentalisation permanente qui est faite de ce combat en vue de règlement de compte tactique dans un parti. C'est, bien insulter la cause des femmes qu'en faire un instrument de pouvoir.
Eugénie Bastier, le mot de la fin.
Il y a cet écosystème des réseaux sociaux qui, c'est vrai, qui pousse à... à ne plus avoir aucun recul, aucune nuance. Et c'est ça qui me terrifie, cette espèce de confession publique sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon qui affiche son soutien à Quatennens, ouais. Et qui se fait immédiatement...
Il a fait sans discernement quand même, là, pour le coup.
Oui, non, il a manqué de discernement,
en
évidemment.
En disant que c'était la faute de la police, on ne voyait pas ce qu'elle venait faire là.
Oui, bon. Évidemment, non, mais de toute façon, c'est toujours la faute de la police pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je trouve qu'en tout cas, ce monde dans lequel nous entrons, où finalement, il n'y a plus cette distinction entre privé et politique, et où les affaires se règlent sur les réseaux sociaux plutôt que dans les tribunaux, ce monde-là m'inquiète. Et ce n'est pas minimiser le geste d'Adrien Quatennens que de dire que la manière dont il est reçu dans l'espace public est problématique.
Jolie citation du poète mauricien de Casals. Ce ne sont point les hommes qui mènent la révolution, c'est la révolution qui emploie les hommes. Plutôt, elle les mange en l'occurrence.
Les femmes.
C'est les femmes qui emploient la révolution pour manger les hommes. Non, attendez, on s'éloigne un peu.
Ouais, vous éloignez là, si je puis me permettre.
Merci à tous les deux. François Calfon, Eugénie Bastier, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. 8h57, Culture Média sur Europe 1 arrive dans un instant. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
Au programme.
J'écoutais ce que vous disiez, ça vous intéressait. On va parler d'affaires, d'abord dans notre info média du jour, mais des affaires de foot qui concernent le foot. Enquête de So Foot, sexe, pouvoir, argent, ma fédé va craquer. Et le JDD dimanche, je ne sais pas si vous avez vu ça, ces affaires qui empoisonnent le foot français. Et il y en a, la joueuse qui s'est fait taper dans les jambes avec une barre de fer, le dossier Pogba, le président de la fédération sous tension. On sera avec Solène Cherrier, qui est le patron du service des sports du JDD, pour raconter tout ça. Au sommaire également, là aussi ça va vous intéresser, livre de Jean-François Bronstein, professeur de philosophie, La religion woke. Il voit là une nouvelle religion, il nous expliquera comment, pourquoi et ce que ça veut dire pour ce qui arrive et ce qui nous intéresse ici dans les médias. Et puis beaucoup plus joyeux, beaucoup moins lourd, la comédienne Michèle Bernier pour la nouvelle pièce écrite par Laurent Ruquier. Je préfère qu'on reste ensemble, je préfère qu'on reste amis, était resté à l'affiche pendant 2 ans, 600 représentations.
Ah pas mal, mais c'est le record absolu il me semble, c'était quoi?
Je ne le sais pas par cœur.
Vous vous rappelez pas, c'est une histoire d'avion.
Moi je suis Boeing, pas du genre Boeing. À faire des citations et à viander dans ma citation.
C'est Boeing, je crois, 18 000 représentations. Boeing. Voilà. Merci Philippe, excellente émission. Quant à nous, on se retrouve demain matin dès 7h sur Europe 1. Bonne journée.